le froid et la famine.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Anthony, assisté de Victoria. Cette émission est diffusée en direct le 10 octobre 2007 de 18 à 21h, en différé le 11 octobre, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Chers amis, chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'est l'émission dont je me serais bien passé. À la façon dont Victoria ce soir a présenté, vous avez déjà mesuré l'émotion qui nous étreint tous autour de cette table. Ce sera le dernier journal de Serge de Bekech et je remercie Henri Lesquin de m'avoir permis de l'animer parce que nous pesons tous celui qui est parti. Combien, comme nous l'avons dit, il est irremplaçable. Pour moi, se bousculent les images, les souvenirs, les anecdotes, à la fois les jours heureux, c'était Serge avec son épouse, avec la mienne, c'était au Maroc, c'était au Portugal, c'était en Espagne, c'était en Italie, c'était le Serge des bons jours, des journées heureuses, facétieux, où nous passions nos soirées à échanger 1000 contradictions et Serge, homme d'humeur, était sans cesse un homme d'humour. Mais Serge, c'était aussi l'homme de combat intraitable qui jamais ne plia devant les puissances du jour. C'était l'homme qui n'était marqué d'aucun collier. Il avait, sur le tas, appris son métier, son beau métier, son grand métier, que tant d'autres déshonorent. Ce métier, il avait ensuite donc forgé autour de sa personnalité. Il est parti alors que, plus que jamais, nous avions besoin de sa voix dans cette radio qui est celui de la France courtoise, mais d'une France courtoise humiliée, d'une France courtoise qui survit difficilement tant elle est écrasée par des puissances qui détestent tout ce qui en fait son âme. Alors, ce soir, nous allons conduire une émission du souvenir, de la mémoire, bien sûr, mais une émission de la fidélité tournée vers l'avenir. Parce que, nous le savons bien, Serge, de là-haut, nous regarde et nous devons l'assurer que nous ne faiblirons pas. Donc, nous allons l'évoquer, mais nous allons évoquer aussi, je le pense, tout au long de cette soirée, comment nous pourrons l'assurer de la continuation. Autour de ces micros, ce soir, vous entendrez Henri de Lesquin, président de Radio Courtoisie, Daniel Amiche, mon frère, Daniel Amiche qui a, comme moi, pendant des années, assuré une partie de ce libre journal de Serge de Bekech. Il y aura Alain Sanders, mon frère de combat, d'aventure, de voyage, qui a été celui qui, le dernier probablement, a eu un très long entretien avec Serge. Moi-même, c'était il y a très peu encore à Banyuls. Je l'ai vu pour la dernière fois avant de partir au Liban. Je savais que je ne le reverrais pas. Il y a Jacques Redon, ancien dessinateur à Pilote. Toute une partie de la vie de Serge de Beketch. C'est la bande dessinée. Il avait passionnément aimé ce métier parce que le spectre de Serge de Beketch était très large. Il pouvait très facilement citer du Shakespeare, mais en même temps, il savait se complaire dans la bande dessinée. Il savait combien, par le dessin, on fait passer des choses. Il y a Aramis, que nous connaissons tellement, ancien dessinateur à Minute, qu'il a accompagné aussi dans ses belles aventures de presse. Enfin, Jean-Paul Chérit de Olmeta, de son libre journal de la France courtoise que nous aurions tellement aimé voir continuer et qui, c'était pour nous tous, le marquis, l'homme au fond de toutes ces relations qu'aimait Serge, les fulgurances de la vie parisienne. Voyez-vous, le spectre de Serge était énorme. Nous écouterons au téléphone, hélas seulement au téléphone, François Brignot, qui a connu toute la vie journalistique de Serge, depuis les premières époques de Minute jusqu'au Libre Journal. Et puis, après Brignot, notre ami Alain Jean-Pierre Cohen, qui n'est pas là, puisqu'il n'est pas à Paris, qui a été le compagnon de Serge, l'ancien rédacteur en chef de Minute. Que d'anecdotes avec Serge, tu la raconteras tout à l'heure. Et enfin, la seconde, nous avons tout au long de cette soirée Victoria. Je sais combien Victoria a donné toute sa gentillesse, toute sa fibre pour Serge. Elle aimait passionnément cette émission et je sais combien ce soir, ça va être une partie poignante pour elle et difficile. Nous lui disons notre affection. En deuxième partie, nous aurons Anne Brassier. Je ne la présente pas tout à l'heure, vous l'écouterez. Gérard Marin nous rejoindra aussi. Philippe Varlet, secrétaire général de Radio Courtoisie, qui a été tellement auprès de Serge tout au long de sa vie. Et puis, nous aurons au téléphone, parce qu'il n'a pas pu faire autrement, celui qui l'a assisté jusqu'au bout, qui pourra témoigner de la façon dont Serge a su voir la mort en face, en sachant très bien que ce n'était de couverture à la vie éternelle. Le père Jean-Paul Ardoiche a été l'ami, l'intime de Serge. Et je pense que c'est celui qui terminera cette fin de soirée dans l'espérance.
Un jour dans la fusillade, galopant à l'inconnu, nous allions en cavalcade, tu étais mon camarade, celui que j'aimais le plus, celui que j'aimais le plus. Un cavalier barbare, des siens le ce fut toi qui l'as reçu. J'ai mangé l'estafila que ce coup t'avait valu. Mais à moi et mon camarade, près de son corps étendu, près de son corps étendu. Je suis ma route maussade et je chevauche son but. Au hasard d'une embuscade, j'ai perdu mon camarade. Je ne rirai jamais plus, je ne rirai jamais plus. Prince, écoute ma balade.
Incident technique, ça n'est pas grave. Vous avez reconnu la balade du cavalier. La balade du cavalier, c'était écrit par Jean de Brême. Jean de Brême avait été un officier parachutiste de la résistance pour l'Algérie française, qui avait donné sa vie, abattu par la police d'un régime impitoyable. Serge de Beketch avait été parmi ces jeunes gens, t'en souviens-tu Hélène qui nous écoute en ce moment, de ce cercle Jean de Brême que nous avions créé à partir de Toulouse, et c'était le chant qui concluait toutes nos veillées. Nous écoutons maintenant la voix de Serge.
Alors je crois que nous avons au téléphone Serge de Becquetch. Serge ?
Oui Henri, je serai très bref. Je voulais simplement dire ma joie et ma fierté d'avoir appris que la radio était
autorisée,
confirmée, autorisée de nouveau. Et je trouve que c'est une décision dont il faut remercier le CSA parce que elle est courageuse et intelligente à la fois. Courageuse parce que elle a su comment tenir compte de la formidable campagne de haine, de diffamation, de calomnie qui nous a poursuivis depuis bientôt un an, depuis la mort de Jean. Et ça ne restera pas impuni, je tiens à le dire. Et puis, elle est intelligente parce que elle a compris que cette radio n'était pas ce que disaient ses ennemis, qu'elle était un lieu de liberté et de rencontre, et qu'elle était devenue quelque chose d'indispensable pour des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'auditeurs. Et ça, c'est pour moi un grand sujet de fierté, puisque d'une façon très, très modeste, j'ai été au départ de cette radio avec Jean Ferré. C'est-à-dire que j'ai soutenu Jean Ferré dans cette initiative qui paraissait totalement surréaliste. Donc ça couronne l'intelligence de Jean Ferré. Pour lui, c'est un hommage posthume qu'on ne pouvait même pas espérer. Il a créé cette radio avec de l'intelligence, du courage, du bon sens et un sens de l'autorité qu'il adore. C'est aussi une récompense pour tous les bénévoles qui nous ont soutenus. Je pense aussi bien en ce qui concerne la direction des affaires, je pense à Philippe Varlet, je pense à Didier Roy, je pense à M. Besançon, je pense également à M. Langlois qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, à Caroline aussi, et je pense au secrétaire. Tout ça, c'est leur réussite. C'est évidemment et surtout, je dirais, la réussite d'auditeurs qui ont fait une chose qu'on ne pouvait même pas imaginer possible, qui était de payer pour quelque chose qu'ils pouvaient avoir gratuitement. Et ça, c'est un signe d'intelligence et de qui est complètement contraire à l'ambiance actuelle du pays, puisque maintenant on cherche à avoir gratuitement des choses qu'on devrait payer. Voilà. Et puis, pour en finir, je voudrais dire aussi que je suis doublement fier, d'abord parce que, triplement fier, je dirais, parce que cette radio, comme je l'ai dit, j'ai un petit peu présidé à sa naissance. Deuxièmement, je crois avoir participé à ma manière, sinon à son succès, du moins à sa notoriété, pas toujours dans le meilleur sens du mot, c'est vrai. Mais troisièmement, ma plus grande fierté, c'est d'avoir su faire le bon choix quand il s'est agi de trouver un remède au chaos que certains préparaient pour en profiter à la suite de la disparition de Jean. Et il n'y a pas de jour où je ne me félicite pas d'avoir pris une décision qui, à l'époque, a paru complètement paradoxale parce que Becquetch soutenant un énarque polytechnicien haut fonctionnaire, ça paraissait tellement délirant que les gens ne voulaient pas le croire. Eh bien, pour une fois dans ma vie, j'aurais fait quelque chose d'à peu près intelligent. Et voilà, je voulais te remercier de tout ce que tu as fait pour cette radio depuis un an et remercier les auditeurs de nous avoir soutenus. Je m'excuse pour ma voix, mais je suis ému d'une part, mais d'autre part extrêmement fatigué. J'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques. Je serai d'être digne de cette autorisation et de cette radio et de ce que j'aurais voulu en faire.
Serge, merci beaucoup de ton intervention. Merci pour tout ce que tu as dit. Ça nous fait chaud au cœur. Hein. Et nous formons tous des vœux et des prières pour ta santé. Hein. On sent bien que tu es affaibli. Et nous souhaitons vraiment que tu te soignes bien, que tu sois bien soigné.
Voilà, on essaie de bien me soigner, oui, effectivement.
Et que tu puisses te redresser. Parce que tu nous fais de la peine quand on t'entend si faible. Ça nous fait de la peine. Mais en même temps, ce que tu nous dis, encore une fois, nous touche profondément.
Merci.
Et je rappelle aux auditeurs qui ne le sauraient pas encore que tu as été avec Jean Ferret, vous avez été les deux fondateurs de la radio. C'est vous qui l'avez créé, et bien sûr, comme tu l'as rappelé, tu l'as porté à bout de bras, enfin, tu as aidé Jean Ferret constamment à la développer. Et tu continues à l'aider.
Voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais à ma manière, qui n'a pas toujours été la bonne, qui n'a pas toujours plu, mais peut-être que c'est aussi ça qui a permis cette espèce d'alchimie bizarre entre Jean Ferret et moi, et ensuite entre toi et moi.
Et oui, c'est une alchimie bizarre, mais...
Je te félicite de ces rencontres.
Oui. Merci beaucoup, Serge. Repose-toi bien.
Bonne fin d'émission, au revoir.
Et mes amitiés à ton épouse.
Entendu.
Au revoir.
Eh bien oui, l'inéluctable est là. Il y a des moments où ça s'arrête, mais s'arrêter, c'est commencer. Serge, nous le retrouverons. Il ne nous quitte pas. Henri de Lesquin, il est émouvant, il vous a adressé ce message qui montre bien que juste au bout, il aura lutté, il aura aimé sa radio, il aura aimé ce combat. Henri.
Oui, cette intervention de Serge, qui est très émouvante, est son testament pour la radio, vous l'avez bien entendu. Alors, elle a une histoire. Nous sommes le 3 septembre 2007, et nous recevons le lundi matin, donc le jour de mon émission, la lettre du CSA qui nous annonce que nous sommes reconduits, que nous avons une nouvelle autorisation pour 5 ans. Une nouvelle autorisation à Paris sur la fréquence historique de Radio Courtoisie de 95,6 MHz. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai su cela, Paola m'a prévenu à 11h, donc à 11h05, j'ai appelé Serge. Je lui ai dit Serge, je l'ai appelé, il était, je crois, à l'hôpital. Et je l'ai appelé par son numéro de téléphone mobile, il a répondu, et je lui ai dit « Serge, je vais annoncer la grande nouvelle, pour nous c'était une grande nouvelle, sinon la radio aurait disparu, et je voudrais que tu interviennes au début de l'émission, pour commenter cet événement qui est capital pour la vie de la radio. » Serge me dit « Oui. » Il me dit « Oui, Je vais faire un effort, je vais le faire. » Et puis, à 6h20, il téléphone à la radio et il me dit « Écoute, Henri, je ne vais pas intervenir. » Je dis « Pourquoi ?»« Parce que j'ai peur de pousser des cris de douleur pendant la communication téléphonique. » Alors je lui dis « Ben écoute, évidemment, dans ces conditions, tu ne peux pas intervenir. » Et il me dit « Écoute, j'attends le médecin qui doit venir d'ici 10 ou 20 minutes. » Si je vais mieux, dans une heure ou deux, j'appellerai la radio et je demanderai à passer à l'antenne. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il n'est pas intervenu à 18h comme prévu initialement, mais à 20h15 ou 20h20. Et il a donc, Franck qui était dans la cabine technique m'a fait signe, et donc il est passé, il a dit ce que vous avez entendu. Et depuis j'en ai parlé avec son épouse, Danielle de Bekech, qui m'a dit « Serge a rassemblé toutes ses forces » pour faire cette intervention, toutes ses forces. Et vous avez bien compris quel homme c'était, parce que il savait très bien qu'il vivait ses dernières semaines. Il le savait pertinemment. Et il a voulu, jusqu'au bout, être utile à la radio, être utile à la cause à laquelle il croyait, passer un message de sympathie et d'affection à tous ceux qui l'avaient aidé à faire la radio, aux auditeurs. Et je dois dire que moi je suis admiratif bien sûr de tout ce que Serge a fait et dont nous allons parler au cours de cette émission, mais je suis admiratif encore plus, hein, peut-être, Qu'il ait eu ce courage dans la maladie. Il souffrait depuis un an, il souffrait terriblement parfois, terriblement. Il se savait... Alors, il avait sans doute un espoir, mais il savait que c'était 9 chances sur 10 qu'il disparaisse prochainement. Et malgré cela, il a voulu jusqu'au bout continuer à combattre dans la douleur. Et là, vraiment, c'est de l'héroïsme. Hein. Enfin, ce n'est pas autre chose que de l'héroïsme. Et je crois qu'il faut avoir une pensée pour lui.
Merci, Henri. Ben, Serge est mort comme son père est mort à Diamienfou. Serge aimait évoquer d'où il venait. J'avais eu idée de faire un livre avec lui, un livre de sa mémoire, de ses humeurs, ses foucades. Et puis un jour, il m'a dit, écoute, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire le livre, mais pour reconquête, je veux bien un long entretien. Et dans ce long entretien, il a raconté sa vie, toute sa vie. Et entre autres, il nous dit sa mère, d'où elle vient, son père. Et son père, c'était pour lui... Donc le modèle dont il ne se départissait pas, pourtant il ne l'avait pas connu. Mais Serge aimait rappeler le numéro de brevet de para de son père, mort à Diamienfou. Pour lui, c'était donc c'est par son père qu'il avait aussi rejoint la grande geste française, par sa mère bien sûr, mais par son père, engagé légionnaire d'origine russe né en Serbie. Et donc, voilà pourquoi je crois qu'il a tenu, il est mort avec un courage de combattant de Diamienfou. Je pense que lorsque il était avec nous à l'ambassade de Russie, Alain racontera cela tout à l'heure, c'était en lui aussi le Cosaque qui renaissait. Parce que Serge, au fond, c'est toute une geste de la vieille Europe. C'est à la fois donc ses racines françaises, tellement françaises de toute origine de nos provinces par sa mère, mais par son père, c'était à la fois la geste des paras, la geste des cosaques. Et je crois que, en ce souvenir-là, on va écouter Russie libre.
Le mépris de ceux qui...
Là, c'était la vieille France, mais c'était aussi la vieille Russie. Vous voyez ce qu'il me disait. Il évoquait chez lui où l'on parlait une langue bizarre, où les mots de tous les jours étaient en russe et les grandes conversations en français. Ma grand-mère, disait-il, princesse tatare de Crimée, était folle, géniale, héroïque, surhumaine comme il se doit. Et je lui demandais, que vous a-t-elle transmis ? Il me répondait, la folie seulement, hélas. Car, bien sûr, on ne peut pas évoquer Serge. Si on n'évoque pas cette pointe de folie, cette pointe de génie slave qu'il avait, alors je lui demandais « Quelle est votre religion ?» Il me répondait « Je suis orthodoxe par baptême, catholique par choix, traditionaliste par conviction. On ne peut me demander de m'amputer d'une partie de moi-même. » Et évidemment, Serge n'était pas un idéologue. Il n'était pas un doctrinaire. Et vous savez, il faut se méfier de deux sortes d'hommes, les doctrinaires et les gens sans doctrine. Alors Serge avait des principes, il avait des valeurs, mais ça n'était pas un doctrinaire froid. Et alors je lui avais demandé quel jugement global, je m'attendais à une longue réponse sur la situation de la France, de l'Europe, de la chrétienté. Et voyez cette fulgurance dans la réponse, j'étais admiratif. Je ne juge pas, je considère. La France, c'est la Belle au bois dormant. L'Europe, c'est la fée Carabosse. La chrétienté, c'est Cendrillon, adorable sous sa crasse, au milieu des cendres éteintes. Cela vaut des volumes et des volumes de dissertations politiciennes. Alors, il y a un homme qui a bien connu Serge, qui a été son modèle, qui a été, oui, on peut le dire, quelqu'un dont il parlait souvent, qu'il aimait beaucoup, avec lequel il avait eu quelquefois aussi des empoignades. Cet homme-là a été près de lui, à Minute, dans la grande époque du grand journal Minute, qui tirait à l'époque 200-300 000 exemplaires. Et puis ensuite, cet homme-là l'a suivi au Libre Journal, lui a apporté l'immense talent qu'il a, c'est François Brignot. Nous appelons François Brignot. Alors, en attendant que l'on puisse joindre François Brignot, je pense qu'il faut continuer à citer un tout petit peu les pensées de Serge. Alors, il nous disait, voyez-vous, on lui demandait, vos ennemis vous qualifient de racistes, d'antisémites, de xénophobes. Serge répondait, le jour où mes ennemis diront du bien de moi, je commencerai à me faire du souci. Je suis raciste si l'on entend par là que Dieu a voulu que les fils d'Adam engendrent des races différentes, avec leurs qualités et leurs défauts spécifiques. Je ne discute pas les idées du grand patron. Il n'y avait là rien qui soit de la haine. En réalité, nous savions fort bien, on en parlait souvent avec Alain, l'immense tendresse qui était aussi celle de Serge de Bekech. Hein, son immense tendresse qui fait qu'il était capable, bien sûr, de foucades, de coups de gueule incroyables. Mais ensuite, donc, c'était un homme qui était incapable de haine. Capable de colère, oui, de haine, jamais. Allô ?
Oui.
Oui, François Brignot, merci d'être là. François, je te demanderai simplement ceci, c'est le jugement que tu portes sur cet homme que tu as tant aimé, qui t'a tant aimé aussi.
Ben, je voudrais m'adresser à lui et lui dire « Allô Serge, c'est François, tu m'entends ?» Autrefois, on disait que je ne manquais pas de souffle. Mais aujourd'hui, c'est l'air qui me manque. J'aspire, j'inspire, je soupire, j'expire. On dirait que j'ai un bémol dans le bignou. Enfin, j'espère quand même que tu m'entends et que tu seras de mon avis. Les soirées funèbres ne sont pas faites pour pleurer. Les larmes n'ont jamais ressuscité les morts. Pour nous donner l'illusion qu'ils sont toujours avec nous, mieux vaut parler d'eux, simplement, sans emphase, familièrement, et même avec une certaine gaieté. Enfin, qu'ils nous répondent, comme autrefois. Afin aussi qu'on entende encore leur voix, ta voix, Serge, ta voix enrouée sur la fin, mais surtout ton rire et tes imprécations. Je me souviens, un soir, nous allions de Montparnasse à Saint-Cloud. Tu étais au volant de ta superbe auto. Tu conduisais en poète, détaché des contingences et des signaux. Nous étions avec Jean Nourigat, un autre poète, l'aubergiste du Père Tranquille, où nous prenions et nos questions du printemps, d'automne, d'été et même d'hiver. Nous évoquions gentiment les personnages répugnants du grand bazar, des abrutis, grondait Nounours, et en roulant tous les airs du Béarn et de l'Auvergne. Et toi, tu disais, non, pas des abrutis, Nounours, tu es un peu trop bon, ce sont d'abominables crapules, pourriture à deux pattes, et tu montais toi-même en disant, responsable de la putréfaction générale, d'immondes excréments auxquels il faudrait bien infliger le supplice du pal, un vendredi soir, place de la Concorde, à l'heure où les bourgeois se retirent dans leur maison de campagne pour qu'ils aient le temps d'y penser pendant le week-end. Et là encore, tu riais d'un rire qui partait des genoux et montait jusqu'aux oreilles, un rire qui te secouait le corps comme si nous passions des dodanes. Et en outre, le plaisir que te donnait cette vision te faisait fermer les yeux, ce qui n'est pas recommandé quand on conduit les automobiles, paraît-il. Des images comme celle-là, j'en ai 100, j'en ai 1000. Pourtant, à la réflexion, j'ai le sentiment de ne pas t'avoir bien connu. Question de génération, sans doute. En 1946, quand tu naquis, je sortais à peine de Fresnes, la principale prison politique de la République. J'avais l'âge déjà d'être ton père. Les pères et les fils sont rarement de vrais copains. D'ailleurs, tu me voyais. Dans notre métier, c'est un signe. En revanche, j'ai bien connu Beckett, un des hommes de presse les plus doués de notre clan. J'étais un des dirigeants de Minute lorsque tu y entras, comme pigiste, rétribué, oui. 30 ans plus tard, cette année, en 2007, je termine ma vie de journaliste comme pigiste aussi. Pigiste mérite. Pigiste dans un journal, dans le libre journal qui t'appartient. Un journal que tu as fait de toi-même. Mais pour ne pas avoir l'air de te flatter, je ne dirai rien de ton courage, de Lyon. Rien de l'irrespect total que tu montras à Ali Bobard et ses 40 valeurs. Rien de ta vigueur, de la dénonciation permanente et agressive des falsifications habillées en vérité historique et des pitres déguisés en héros. De même, je glisserai sur ta gentillesse, sur ton charme, sur ta sensibilité, sur ta culture si vivante, due à ton amour des livres et à une curiosité tous azimuts, toujours en éveil. Je ne ferai qu'évoquer ton goût du matin des magiciens, ton attirance vers les normes, le coruscant, le cocasse. Dans un pays libre, le libre journal aurait pu devenir le décadère dont tu rêvais. Un mélange hétéroclite et brillant d'échos, d'informations, de reportages, de documents, de chroniques, de critiques. Mais tu étais un opposant, un soumis, patriote enflammé, catholique des eaux profondes, héritier de Léon Blois, de Courteline et de Drummond, le génie français. Le lobby de la commune à question ne t'a donc mis au banc de la société, c'est-à-dire condamné à la mort lente et à l'échec. Tu viens de mourir dans un dénuement qui ressemble à la misère, et pourtant debout au sommet de la barricade que tu avais construite, une des dernières sur leur champ de bataille où se joue le sort de la France française. Salut Serge, porte-toi. Ici, nous continuerons à faire de notre mieux, mais où tu es, si tu rencontres quelqu'un capable de nous filer un coup de main, ne te gêne pas. Salut Serge.
Merci François. Merci François Brignot. Daniel Amiche, c'est aussi le compagnon fidèle. Et c'est des yeux qui brillent ce soir. Daniel, allez, à toi.
Ben, je crois que nous sommes tous ici poignés par l'émotion, puisque ce sera ce soir le dernier libre journal de Serge de Bekech, et je te remercie Bernard de le diriger. Henri Lescar disait tout à l'heure un mot qui m'a beaucoup frappé, c'était que Serge avait souhaité rendre service à cette radio jusqu'à son dernier souffle. Ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire et qu'on ne mesure pas. Serge était un homme de service. Et je dois dire que c'est un peu vaniteux ce que je veux dire, mais moi je m'honore de rendre service toujours à plus grand que moi. Et j'ai été vraiment heureux pendant toutes ces années de servir, très modestement, avec une petite qualité par rapport à l'énorme talent de Serge, dans son libre journal. Ma collaboration avec lui a commencé comme une espèce de gag, faire une espèce de chronique, les fous du roi, enfin, une chose absolument échevelée, livide au milieu des tempêtes, et il adorait toutes ces choses, absolument. Serge est un homme qui se risquait au bizarre, comme on dit dans certains films. Et il a accepté, c'était une vieille amitié qui remontait 22, 23 ans déjà par rapport à aujourd'hui. Et puis, malheureusement, cette petite chronique radiophonique que je faisais, en seconde partie de son émission, dont il me mangeait d'ailleurs un gros morceau, il faut dire, enfin voilà, il était chez lui après tout, s'est très vite transformé pour moi en, je ne dirais pas en cauchemar, mais en angoisse, puisque la maladie est très très vite arrivée après 93. Et là, il a fallu malheureusement assumer de grandes, longues absences de Serge en raison de sa maladie. Bon, on a tâché de le faire, encore une fois, avec ce principe qui consiste à servir plus grand que soi. Ce que Serge a fait lui-même, il a toujours servi plus grand que soi. Il a servi son Dieu, il a servi son Église, il a servi sa patrie, il a servi son roi. Faut pas l'oublier, c'est un royaliste. Et puis il a servi cette radio qui, de toute la manière, est finalement plus grande que nous tous, et qui est même plus grande que l'addition arithmétique de nous tous réunis autour de cette table, et de tous les patrons d'émission, dont je salue ici le dévouement et le talent. Voilà, alors ce soir, évidemment, c'est une émission qui ne doit pas être trop triste. Nous l'avons, évidemment, comment faire quand on perd un personnage de cette ampleur, de cette gentillesse, dont chacun ce soir va s'efforcer de révéler un aspect comme une des facettes de ce diamant, de ce talent adamantin qu'avait notre ami Serge, dont la présence dans le studio emplissait non seulement totalement l'espace sonore de cette petite pièce, mais aussi tous les postes de radio qui étaient fidèlement branchés sur lui les mercredis soirs. Alors je dis voilà, c'est même pas un salut, puisque nous continuerons ici avec des talents qui ne sont évidemment pas commensurables à ceux de Serge. Nous continuerons son combat, puisque nous avons les mêmes valeurs, comme on dit dans certaines publicités, qui sont pas d'ailleurs les plus mauvaises, je dois dire. Nous continuerons ce combat, et les auditeurs entendront, je l'espère, mercredi après mercredi, le même indicatif, qui évidemment ne précédera plus la voix de Serge, mais les pauvres voix de nous autres qui continuons à essayer de servir ce plus grand que nous qu'il a été.
Merci, Daniel Amiche. Je pense que nous allons maintenant appeler Jean-Pierre Cohen, ancien rédacteur en chef de Minute, Jean-Pierre Cohen qui avait été l'animateur du comité de boycott des Jeux Olympiques à Moscou. Jean-Pierre Cohen, tu m'entends ?
Oui, bonsoir Bernard.
Bonsoir Jean-Pierre. Alors, je suis content que l'on ait pu te joindre parce que tu n'es pas parisien maintenant, tu es à Marignane, tu nous manques à Paris et je sais combien tu es frappé toi aussi.
J'ignorais qu'il a dépendu de sa maladie toutes ces dernières années. Mais je voudrais d'abord dire que mes pensées vont à Daniel, à Cyril et à Émeric, à qui j'adresse toutes mes condoléances, bien sûr, et que j'assure de toute ma... et de toutes tes très sincères affections. Excuse-moi. Je tiens aussi à ce qu'il sache que ni le temps ni mon éloignement justement de Paris n'ont altéré l'amitié et l'estime que j'avais pour Serge. On partageait trop de choses en commun. Voilà, tu sais, je ne sais pas bien parler sur ces choses-là. Et je n'aime pas d'ailleurs. Mais comment, ça fait quand même 41 ans. Nous avions commencé notre carrière professionnelle à Minute en 1966. Je l'avais précédé de trois mois à peine et je l'embêtais un petit peu avec ça en lui disant « Mais je suis plus ancien que toi à Minute !» Hein, beaucoup trop de souvenirs, beaucoup trop de choses en commun. Voilà mon Bernard.
Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, je te dis à très bientôt.
Tu salues oui. Alain, je crois, oui. Qui est avec toi, et puis Daniel Amiche.
Bien sûr, nous avions besoin de ta voix. Merci Alain. Merci Jean-Pierre. Alain Sanders, toi Alain, je le disais tout à l'heure, tu as été un des derniers à avoir un long entretien avec Serge, que tu m'as raconté, et là aussi, que de belles choses dans ce dernier entretien. Alain.
Oui, c'est Brignot a eu raison de dire tout à l'heure que c'est pas une soirée funèbre, et donc ce Serge-là, des derniers moments, il m'a passé un coup de fil et il m'a dit « il faut que je te voie ». Donc je suis allé pour lui à l'hôpital Beaujon, parce qu'un hôpital, même quand je ne suis pas malade, j'ai peur.
Beaujon.
Surtout Beaujon. C'était le pavillon Sergent, je me suis dit c'est peut-être le pavillon Pierre Sergent, qui sait. Donc effectivement on a parlé et je ne vais pas raconter parce que c'est des choses confidentielles certaines, mais d'autres. Mais je garderai ce mot qu'il a eu quand il m'a dit, tu sais, il y a une petite maghrébine qui s'occupe de moi. C'est la fée Clochette. La nuit, quand j'ai peur, je me réveille parce que je ne dors pas. Il y a une petite loupiote, une petite lampe de poche. Et c'est cette petite jeune fille qui vient. Ce sont aussi parfois des gens admirables. Et ça, c'était Serge aussi. Alors, je suis content qu'on soit là ensemble. Et puis, avec Aramis, que je vois pas assez, on se voit, hélas, on se voit pour les enterrements de plus en plus. Comme tu le sais, puisque la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour Alain, pour ADG. Donc, il faut qu'on se voie plus. J'ai dit dans présent qu'on a tort de... Parce qu'après, on regrette d'attendre trop longtemps.
Non, en écoutant Jean-Pierre tout à l'heure, j'avais ce sentiment. L'amitié n'est pas... Le temps, l'espace-temps...
C'est vrai.
Ne brise pas l'amitié. Une fois qu'elle est inscrite, elle est inscrite. Mais c'est vrai que... Nous, on a quelques petits kilomètres,
ouais.
pour se serrer dans les bras. Donc, c'est pas
grand chose. Pour rester dans l'autre Serge, je crois que tu voulais qu'on évoque ce jour de l'ambassade d'Union soviétique.
Oui, parce qu'il faut bien, parce que oui. C'est cette ville, ce qui a marqué notre vie militante.
C'était en 91. Oui. Il y avait le putsch.
23 août,
putsch communiste contre Brejnev.
Non.
Contre Eltsine. Brejnev contre Eltsine, qui se montrera d'ailleurs remarquable, quoi qu'on ait dit de lui par la suite. C'est un type qui tenait quand même bien la chopine. Et on décide bien sûr de faire une manifestation avec Bernard, le Chrétienté Solidarité. Alors comme d'habitude, on était très nombreux. On devrait être 60, 65. Et
un 23 août,
en plus, à Paris.
Vide.
Et il y avait 10 fois plus de CRS que nous autres. Donc on est encerclés tout de suite. Mais là va se passer quelque chose d'extravagant. Moi, je suis habillé comme d'habitude, pas Milord. Bernard est impeccable. Serge est en boyard. Et de l'ambassade d'Union soviétique, fendant les rangs des CRS, va arriver jusqu'à nous un émissaire qui nous dit « Monsieur l'ambassadeur va vous recevoir ». Bon. Et effectivement, on va fendre les rangs des CRS, qui n'en reviennent sans doute pas encore, et on va pénétrer dans... Il faut que ceux, les plus jeunes, ceux qui n'ont même pas connu Line Renaud, il faut que les plus jeunes comprennent bien ce que c'était pour nous que ce bunker infranchissable contre lequel on s'était brisé les dents bien souvent en allant plus jeune manifester, en ne réussissant même jamais à l'approcher, ou alors au prix de quelle bastonnade, eh bien, nous y entrions, non pas pour être emmenés dans un goulag improbable, mais pour être reçus comme véritablement des émissaires de la France française. Et Serge faisait dans sa culotte. Je ne sais pas si tu t'en souviens. D'abord parce qu'il n'y croyait pas, et ensuite il disait « c'est un piège, ils vont nous garder ». Alors on est arrivé, effectivement, un immense, cet immense escalier de marbre, avec un buste de Lénine immense. Serge a fait 25 signes de croix. Moi, j'ai essayé de jeter de l'ail par-dessus mon épaule, j'en ai toujours dans ma poche. Bernard, un pas vide, parce qu'il est habitué à être reçu par les grands de ce monde. Et effectivement, là, on est reçu dans une salle immense, immense, avec des tableaux de grande qualité, des tableaux russes, des grands tableaux russes, où on comprend que ces peintres-là ont besoin beaucoup de place, effectivement, puisque le moindre petit tableau tenait un mur entier. Et l'ambassadeur nous dit « Je suis fier de représenter, de recevoir les représentants de la France. » D'ailleurs, moi-même, ce putsch ignoble est devant nous. Il déchire son passeport soviétique. Il déchire le passeport soviétique et il nous charge d'un message, d'un communiqué, enfin, extraordinaire. Je te laisse reprendre
oui,
la
alors
suite.
Là, tout simplement, voilà. Parce que c'est de Serge qu'il faut parler.
Oui, voilà.
Là, il déchire aussi, surtout, sa carte du Parti communiste.
Parti communiste.
Et là, Serge me prend par le bras et je l'ai rarement vu pleurer parce que oui. Brignot a eu raison de le dire, c'est un combattant. Mais là, il pleure.
Oui.
Il pleure réellement à chaudes de larmes, il ne peut rien articuler. Il me dit, mais c'est pas possible ce qui nous arrive. Alors moi, bien sûr, je me fends d'un discours, j'avais préparé à tout hasard.
Très beau discours.
J'avais quand même demandé un rendez-vous à l'ambassadeur, puis tout le personnel de l'ambassade est rangé. Donc là, je demande le procès historique des crimes du communisme. Alors,
l'ambassadeur
me dit oui. Et là, Serge se reprend. Il a donc séché ses larmes et je lui dis maintenant à toi. Et Serge demande la restitution des terres de Crimée qui appartenaient à sa famille. Et l'ambassadeur lui dit « Mais naturellement, ça sera fait. » Alors Serge, j'espère que là où tu es, tu es en train de contempler les terres de Crimée, mais tu as désormais de plus belles terres de Crimée encore, je pense, à ta disposition. Il faudrait peut-être quelques questions parce qu'il y a des auditeurs.
C'est des témoignages.
Des témoignages. Alors, Victoria.
Alors, une auditrice nous dit « Serge de Beketch est de la race de ceux qui meurent au combat après avoir tout donné, fortune, réputation, santé. En un mot, c'était un homme libre. J'espère et je demande que le générique de l'émission de Serge reste le même. »
Accordé.
Ça a été dit tout à l'heure.
Ah bon, excusez-moi, je n'avais pas entendu. Alors là, vous en avez plusieurs. Hein. Je vous ai lu le premier, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui ont demandé ça. Voilà. Et puis, j'ai perdu un... Alors, c'est un auditeur qui s'appelle Monsieur Kempf, qui donne son nom. J'ai perdu un frère aîné. Que de fois Serge a su exprimer les idées que mon esprit n'arrivait pas à formuler. Lorsque j'ai commencé à animer le libre journal des scouts, dans les années 90, c'est vers Serge que je me suis tournée. Il m'a accueilli avec la gentillesse que chacun d'entre vous a su apprécier. Nous ne nous rencontrions pas souvent, mais c'était à chaque fois pour moi un moment de bonheur. J'avais le sentiment de retrouver un vieux complice. À chaque fois que j'ai dû manquer notre rendez-vous hebdomadaire, il me manquait quelque chose. Ma vie se trouvait incomplète. Comme vous, je pleure. Adieu, Serge, prie pour nous et de là-haut, veille sur nous et sur notre beau pays. Adieu. Un autre auditeur, il faut souligner que Serge de Beketch avait pour autre qualité son ouverture d'esprit et sa confiance dans les gens beaucoup plus jeunes que lui et l'amitié généreuse qu'il entretenait avec certains de ses cadets. Je suis l'un d'eux. Je lui ai adressé un roman que j'ai publié à la mi-août avant d'apprendre son hospitalisation. J'ai écrit ce roman en me demandant toujours s'il plairait à Serge. Alors je ne le saurais jamais. Et je salue tous ses amis. Chers amis, un auditeur qui signait, au fait, c'est Christian Roll. Chers amis, je voudrais m'associer au juste hommage que vous rendez à Serge de Beketch. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la fête de Radio Courtoisie en juin dernier. Chaque année, il accueillait le bulletin célinien à son stand, et de la plus chaleureuse façon,
ça, c'est Marc-Claude Loup.
Oui, c'est pareil, c'est signé aussi. Il m'a le Libre Journal, plusieurs actrices, il a reçu plusieurs articles que je lui avais adressés, dont un sur une émission diffusée sur une autre radio qui, en toute non-confraternité, se permettait d'attaquer cette radio courtoisie que nous aimons. Je garderai toujours l'image roborative d'un homme en colère. Je veux dire animé d'une sainte colère. Je sais que la comparaison peut paraître écrasante, mais Serge m'a toujours fait penser à celui qu'il vénérait et qui chassa les marchands du temple. Serge jouait aux gémonies, les marchands du temple, les profiteurs du système et tous les corrompus. C'était aussi un grand polémiste dans la lignée de Léon Blois, Henri Béraud, François Brignot et tant d'autres grandes plumes de la droite française. Le jour où on éditera une anthologie des polémistes français contemporains, nul doute que Serge y aura sa place. Très cordialement à son épouse Danielle, à ses enfants et à vous tous, Marc Laudeloup du bulletin Sédinien.
Merci Victoria, on continuera tout à l'heure à lire quelques témoignages. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Paul Chéry de Olmeta. Il a été vraiment un de ceux qui, juste au bout, ont accompagné Serge. Il a apporté tout son talent à son journal. Jean-Paul, à vous.
Merci. je garde le souvenir de Serge, un souvenir extrêmement ému, parce que c'est quelqu'un qui était effectivement intransigeant, mais pas sectaire, qui n'a jamais reculé sur ses convictions, mais qui avait avec moi toutes les faiblesses. Les conversations que nous avions ensemble, et qui sont restées vraiment très secrètes, et le demeureront, m'ont prouvé de sa part, mais vraiment une vraie amitié. Il était plus jeune que moi, et c'était quand même mon grand frère. Et le jour où il a créé son journal, bon, j'avais une toute petite rubrique dans Minute, il nous a réunis dans sa maison, rue David d'Angers, qui devait lui apporter après beaucoup de soucis, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a eu ce mot fantastique, je vais créer un journal, sans rien. D'ailleurs, il avait préparé une maquette, il ne l'a pas retrouvée sur l'instant pour nous la montrer, donc on était dans du vrai Serge. Et il a dit, je souhaite m'entourer de gens que j'ai plaisir à lire. Alors, comme j'avais une toute petite rubrique d'un minute, on aurait donné la Légion d'honneur, j'aurais été plus heureux. Et après, c'est comme ça que petit à petit, nous parlions, et il me disait, vous devriez écrire ça, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Puis eh ben, évidemment, alors après j'ai écrit un peu plus, et puis après j'ai fini par avoir ma page, et il y avait un jeu qui était très amusant, c'est que dans les réunions de Radio Courtoisie ou de partis politiques ou d'autres choses, où on se retrouvait avec nos auditeurs ou nos lecteurs, souvent les lecteurs venaient vers moi, déjà ils me confondaient avec Serge quand, à cause de la barbe ou tout ce que vous voulez, et alors ça c'était drôle, et quand ils s'apercevaient qu'ils s'étaient trompés, j'existais plus, hein, c'est, je veux dire, immédiatement. Et souvent les gens venaient me dire, oh monsieur, vous avez reçu le Libre Journal, on commence toujours par votre page parce qu'on rigole. Et je voyais que parfois, Serge était content en se disant, après tout, quand j'ai découvert ce type, je ne me suis pas trompé de trop. Puis après, ça finissait, par en prendre ombrage. Alors quand il était à côté de moi, je disais, mais j'espère qu'aussitôt après, vous sautez sur l'éditorial. Et on n'avait que des rapports comme ça avec Serge. Mais je dois dire que, allez, on va dire tous les 10 jours, et depuis de nombreuses années, eh bien, nous avions à trois un rendez-vous d'amour, et personne n'avait le droit de venir s'en mêler. Et Serge, qui était si ouvert au monde, ne voulait pas. Patrick Goffman, Serge et moi, nous avons fait le Libre Journal. Et si par hasard il y en a un qui arrive en retard ou qui avait un empêchement, la journée était boiteuse. Et ça, c'était des moments tout à fait privilégiés. Et lorsqu'enfin le journal était bouclé, Serge qui râlait depuis une heure en disant j'ai faim, nous nous retrouvions sur le boulevard de Belleville. Puis on allait dans le premier rat qui voulait bien de nous. Il était thaï, il était algérien, il était japonais. Enfin, on connaissait Belleville. Et là, on buvait souvent du thé, contrairement à la légende. Et nous balancions, c'était une espèce de décompression après le bouclage du journal. Alors on nageait dans les blagues de garçons de bain, et voilà, on passe. Et Goffman nous quittait parce qu'il était épuisé par le journal, ce qui est vrai, donc il allait se reposer.
Par le thé à la menthe aussi.
Et par le thé à la menthe, je pense. Et nous redescendions tous les deux, Serge et moi, d'une façon immeublement à chaque fois, alors qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, jusqu'à la place Francis, en parlant. Et ben, j'en ferai jamais ces parcours-là, parce que c'était des moments d'enchantement, et ce sera plus possible dorénavant. Voilà.
Merci, Jean-Paul. Serge, c'est aussi, on a dit, la diversité de son métier de journaliste. La bande dessinée occupait une grande place. Et dans l'entretien qu'il me donne, voyez-vous, c'est très important, c'est 3000 signes, hein, dont il parle de ses débuts à Minute. Bon, tout ça est très émouvant, parce que vraiment, il fait le pied de grue, il y va, il tient à être engagé, il s'assied dans la salle d'attente, et enfin, il finit par être petit pigiste, mais en même temps, donc, la bande dessinée l'intéresse, et c'est là qu'il va être donc en liaison avec Goscinny, qu'il admire beaucoup, et puis il va être en liaison ami de gens comme vous, Jackie Redon, parce que à Pilote, dit-il, j'ai côtoyé tous les grands de la BD, et vous êtes un de ces grands de la BD. Alors, dites-nous un peu.
Oui, moi j'ai pas beaucoup de souvenirs à raconter parce que je n'ai pas encore l'impression qu'il est mort, voyez-vous. Donc c'est comme pas mal de mes amis qui ont glissé, comme disait mon ami, notre ami Alphonse Boudard. Il y a des gens, je passe sur les quais comme ça, je trouve des bouquins et je me dis, tiens, je devrais l'appeler pour lui dire j'ai trouvé ça. Donc Serge n'est pas encore mort, je pense pas qu'il va mourir un jour, d'ailleurs il va rester avec moi. J'étais cependant très ému de l'écouter tout à l'heure, évidemment, parce qu'en l'écoutant, je me disais qu'il avait vraiment un talent fou et que son charme venait aussi de ça, parce que il était très fatigué apparemment. Mais je pense que si on avait écrit textuellement ce qu'il était en train de raconter, c'était il n'y avait absolument rien à reprendre, pas une virgule, rien. C'est-à-dire, il parlait non pas comme on l'écrit, parce que ça serait facile, mais il parlait comme lui écrivait, et ça c'est beaucoup plus difficile, voilà. Et voilà, donc j'ai beaucoup de souvenirs avec lui, évidemment, beaucoup dans les bistrots, parce que j'ai échappé au thé à la menthe, mais pas au président gris de garçon de bain, ce dont je me félicite.
Merci. Oui, eh bien, Aramis, toi.
Je vais préciser simplement ce que Jackie oublie de dire dans l'émotion. Bon, Serge a été à Pilote, le premier scénariste de Tardy, par exemple. Il a eu pour ami quelqu'un qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Jean-Claude Laureau, qui était un de bons camarades, qui, dans le domaine de, j'allais dire, des extravagances qui sont les nôtres, était l'entraîneur de l'équipe d'archers d'Arabie Saoudite. et grand talent.
Mais graphique. Il leur apprenait à tirer à l'envers, avec la flèche vers eux.
Je sais pas, mais moi j'ai... Il était très ami avec des gens comme Fred, je me souviens même que GB, qui était pourtant communiste, Serge n'était pas en état de santé pour se rendre à ses obsèques. Il avait été peiné de la mort de GB. C'est-à-dire que sous le polémiste authentique, j'appelle polémiste des gens comme François Brignot, comme Serge de Beckett, c'est-à-dire des gens qui disent franchement ce qu'ils pensent. Peut-être que ça n'est pas juste, peut-être que c'est excessif, mais ils disent vraiment ce qu'ils pensent. J'appelle pas polémiste les guignols que l'on nous présente sur une chaîne périphérique et qui, en fait, sont rien d'autre que les commentateurs du politiquement correct en vogue dans le système. Quand on pense que Charlie Hebdo est convié maintenant avec Le Monde, Le Figaro, que sais-je encore, pour nous dicter la bien-pensance du nouvel ordre moral, je me dis ça ce sont pas des polémistes. Serge était un polémiste parce que c'était un homme d'humeur. Et c'était un homme d'humeur parce que il aimait profondément les gens. Moi, ce qui me frappe, si on doit tenir... je suis pas là pour juger, je suis là pour retenir une petite leçon de quelqu'un qui a donné beaucoup, c'est la formidable indulgence que Serge avait vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire qu'il était capable d'effacer cette personnalité immense pour se retrouver admiratif de la personne qui se trouvait vis-à-vis de lui. Et ça, c'était naturel, ça n'était pas du tout apprêté. Il rendait intelligent, je crois même les gens les plus sots. Il était, vis-à-vis de nous-mêmes, dans nos naïvetés, des fois dans nos bêtises, il était incroyable, parce qu'il disait, mais tu sais, c'est formidable ce que tu viens de dire, alors que j'avais l'impression d'énoncer une bourde ou d'avoir enfoncé une fois de plus une porte ouverte. Et l'humanité de Serge, je vais la traduire par plusieurs... au moins une anecdote. Un 26 décembre, où il avait neigé, c'était avant le réchauffement climatique, avant que les Chirac, Al Gore et autres prennent les avions, et M. Borloo aille au Groenland pour s'apercevoir que tout fondait. C'était donc les temps antédiluviens. Un 26 décembre, il avait neigé fortement. Et puis Serge, nous bouclons, je crois que c'était National Hebdo à l'époque, on termine un petit peu tard, parce que après on va prendre un verre, parce qu'il maniait l'art de la conversation, et ça c'était aussi agréable, c'était une preuve de grande civilité. Et il me dit, bon, je vais te raccompagner jusqu'à la gare. Et c'était les débuts de sa conduite automobile, parce qu'il a été un handicapé social très longtemps, et il a fini par passer son permis de conduire assez tardivement. Et là, il me fait rentrer dans un magnifique break 305, un peu cabossé de tous les côtés, mais surtout à l'intérieur, le volant avait été mangé, le tableau de bord avait été mangé, les sièges avaient été mangés. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Tu t'es fait rouler par comment dit-on? Il ne faut pas que je dise de bêtises, parce qu'il y a des préfets qui se font révoquer pour ça par une personne des gens du voyage. Voilà, un voyageur, il y a un marchand de paniers en osier qui t'a refilé une voiture épouvantable. Mais non, pas du tout, cette voiture était dans un état impeccable quand je l'ai achetée. Mais alors, tu sais, le 24 décembre, je suis sorti du journal et puis il était un peu tard, alors j'allais me faire rattraper par Daniel parce que j'étais en retard comme ça m'arrivait parfois. Et puis j'ai vu ce pauvre chien éthique qui traînait sans collier, sans plaque, sans maître. Mais il avait faim, il était malheureux. Alors je l'ai mis dans la voiture et puis j'ai emmené le chien à la maison. Il a réveillonné avec nous, mais alors comme il se tenait très mal, c'était un chien des rues. Au bout d'un moment, Daniel lui dit mais remets-le dans la voiture, j'en ai marre de l'entendre hurler, etc. Et donc le chien avait passé la nuit de Noël après s'être restauré dans la voiture de Serge et avait dévoré tout l'intérieur de la voiture. Voilà, tel était Serge. Une autre anecdote qui me vient à l'esprit dans le côté facétieux du personnage, c'était au 49 avenue Marceau. Nous fréquentions à l'époque, nous avions en bas, juste au coin, un établissement qui s'appelait le Marceau et dont la particularité était de vendre le thé plus cher qu'au Fouquet, c'est ce que disait Philippe Coudert. Et pour nous venger un petit peu du patron, qui était un solide Aveyronnais qu'ADG avait baptisé Achille, un jour, Serge, en arrivant au journal, découvre qu'il y avait des travaux devant la cabine téléphonique qui se trouvait en vis-à-vis de l'établissement en question. Et là, il dit, non, c'est trop beau, on va téléphoner à Achille. Et il téléphone, il imitait fort bien tous les accents du monde, et il téléphone donc à l'Aveyronnais en question, avec une voix extrêmement neutre, en disant, bonjour monsieur, vous êtes bien monsieur Intel, vous êtes le directeur de l'établissement Le Marceau, oui, tout à fait. Écoutez monsieur, je suis le responsable des télécommunications de votre arrondissement, nous avons un problème, vous avez une cabine téléphonique en face de chez vous qui est en travaux. Oui, monsieur, c'est tout à fait exact. Oui, alors voyez-vous, est en travaux depuis 15 jours. Or, depuis 15 jours, toutes les communications qui sont passées dans cette cabine téléphonique sont créditées sur votre compte. Or, il se trouve que des personnes téléphonent à New York, à Taïwan, à Hong Kong, à Moscou, etc. Alors, ayez la gentillesse de mettre un écriteau interdisant l'accès de la cabine. Ce que fait aussitôt le patron de bistrot, qui va mettre un écriteau interdit d'entrer. Et puis, comme c'est écrit à la main de façon maladroite et que ça n'est pas un panneau officiel, des gens enfreignent bien entendu cette interdiction et pénètrent dans la cabine. Et nous, du balcon, nous voyons Achille sortir de son établissement et sortir, en prenant par la peau du cul, les premières personnes qui arrivaient dans la cabine. Donc ça faisait partie des petites anecdotes que je me permets de rappeler, parce qu'il avait ce sens de drôlatique de l'existence. Et on peut faire des allusions en disant c'est un polémiste, c'est vrai, il a la rotondité béraldienne. Il avait l'humeur de Léon Blois, mais il y a aussi quelque chose de profondément français chez ce slave, qui est l'esprit, j'allais dire, rabelaisien dans le bon sens du terme. Voilà ce que je voulais dire sur Serge, qui est vivant dans nos cœurs, en tous les cas.
Oui, voyez-vous, par exemple, là où il me décrivait ceci, je lui dis, mais vous étiez, Serge, un homme d'ouverture et pas de fermeture. Et il m'en donne la preuve, il me dit, oui, ben, lorsque j'étais tout jeune apprenti, je faisais des trous, si l'on peut dire, bien fermés. Pour cela, je trimballais 12 heures par jour des sacs de poussière. 160 sacs de 50 kilos, soit 13 à l'heure. 8 tonnes de poussière par jour à déverser dans un mixeur géant pour fabriquer une bonne cimentifère, une boue cimentifère destinée à colmater les vides entre le béton et la terre. Vous voyez, parce qu'il avait trouvé le moyen de démarrer en étant engagé dans comme manœuvre dans l'entreprise Soletanche pour construire la centrale nucléaire du Bugey. Cela explique aussi qui était Serge. C'était un dur, il avait manié les sacs. Et donc, voilà, intellectuellement, ce n'était pas très gratifiant. Mais j'ai appris un secret que Bernard, tu m'as appris dans une devise, ça il me citait, que j'ai faite mienne. Un beau jour, je me promenais, il le cite, sur une plage de l'Atlantique, avec Serge, il aimait venir chez moi au Pays Basque, et alors devant un bunker, je lui dis, voilà quelle est notre devise désormais, contre mauvaise fortune, bunker. Bon, voilà, eh bien, je crois qu'ici, à Radio Courtoisie, Serge a un peu appliqué cela, mais Radio Courtoisie, c'est un bunker ouvert, et voilà pourquoi je crois ces mots que lisait Henri tout à l'heure étaient si émouvants, parce que juste au bout, il a voulu que ce bunker soit fort, imprenable, mais en même temps, c'était toute l'ouverture de Serge.
Et une autre anecdote, alors, parce que là, on est entre nous, on peut dévoiler une des fâcheries qui ont jalonné l'amitié entre ADG et Beketch. Un jour, Minute est assiégé par des gauchistes qui jettent des pavés, force de pavés, cocktail Molotov, etc. Et Beketch, Serge, le téléphone à ADG en lui disant « Si tu viens au journal, passe d'abord chez Papazian. » Il a quelque chose pour toi. Elle dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, on est assiégé par les gauchistes, mais tu prends ce qu'ils te donnent, et puis tu viens, il n'y a pas de problème.
Et ADG va chercher chez Papazian, je ne sais pas si c'était Papazian ou un autre, mais un sac, effectivement, il traverse le cordon de police qui était déjà installé, les gauchistes, enfin, etc., pénètre dans le hall où on le fait entrer comme dans une caverne, et là, Serge se précipite vers Alain et lui dit « Donne-moi ton sac ». Et il y avait à l'intérieur un fusil mitrailleur qui avait été fourni par l'armurier de la Sala, c'est-à-dire le terroriste arménien, qui trois semaines ou un mois plus tard a été arrêté. Ça fait partie des petites anecdotes qui peuvent sembler extravagantes, mais encore une fois, nous étions dans des années post-68-arde assez violentes.
Il y a prescription aujourd'hui.
Il y a prescription, c'est pour ça que je me permets de faire cette confidence et sur nos liens avec le terrorisme, malgré mon patronyme d'origine que je tairai aujourd'hui au micro.
Victoria, vous avez beaucoup de messages et oui, je vous redonne le micro.
J'en ai un en particulier de Cécilia Dem, qui nous dit « Merci pour cette bouleversante émission. Même de loin, j'aimerais y apporter mon petit caillou blanc. Serge avait eu l'intelligence d'accueillir, voici bientôt 15 ans, cette modeste et bien frivole aux yeux de certains, chronique d'art floral et la déléguer à ceux qui le remplaçaient régulièrement ou occasionnellement. Il avait su encore proposer à Marc, qui les assura jusqu'à sa disparition, ses 2 minutes hebdomadaires d'information religieuse, dont je sais que 10 ans plus tard, elles manquent encore à nombre d'auditeurs. C'était surtout aussi, loin des micros, un ami d'une délicatesse rare. Amitié et courage à tous.
Oui, et Marc Dem faisait partie de l'équipe, alors on peut en citer parmi les disparus Jean Mabir, parmi les vivants François Broche, etc., qui était à Minute à l'époque, oui. Il fallait citer son nom, je crois, parce que c'est quelqu'un qu'on a tous bien aimé, Marc.
Oui. Il faudra peut-être revenir sur Pilote. Moi, j'aimerais bien que Jackie Redon nous parle de l'histoire de Pilote et de ce qu'il a fait, de ce que Beckett a fait, combien de temps il est resté.
C'est-à-dire que Pilote, je ne l'ai pas beaucoup connu à Pilote parce que j'étais. On a dû se croiser dans les couloirs, mais on ne se connaissait pas vraiment. On s'est connu après. Oui.
Il a quitté Pilote quand Goscinny est parti, je
crois. Ah oui, c'est ça, oui.
Serge avait même, à l'époque, c'était une tentative de déstabilisation gauchiste, et Serge avait lancé une grève. Et Goscinny lui dit quand même, non, Serge, n'allez pas jusque-là, vous pensez la tête que va faire Dargaud. Justement, on ne cédera pas. Il avait défendu Goscinny contre les gens qui allaient fonder Fluide Glacial. Enfin. Oui, dans les œuvres de bande dessinée de Serge, il y en a une qui me revient à l'esprit, parce qu'elle est typiquement Beckettienne, c'est-à-dire que ce grand lecteur de Tolkien avait commis justement avec Jean-Claude Laureau deux bandes dessinées qui s'appelaient Torcael. Je crois que le spécialiste de la BD.
Il y a deux tomes. Non,
on les connaît aussi.
Voilà,
bien,
mais c'est deux bouquins qui mériteraient en deux tomes d'être réédités. Ça a été publié dans la collection Pilote avec la couverture souple.
Oui,
et
oui.
C'est d'une intelligence et d'une profondeur. Mais ce dont il était fier.
C'est ça.
Ce dont il était fier, c'était cette déboire d'outre-tombe.
Oui.
Ah, oui, puisque c'est le titre qu'il m'a dit. C'était une BD pastichant les grands films d'épouvante dessinés par Laureau que tu évoquais
tout à l'heure. Oui. Hein. Alors il y a beaucoup de choses. Il a travaillé avec Alexis, qui était un très grand dessinateur, disparu lui aussi. Et puis il avait des chronique dans Pilote, où il avait une préscience, déjà, parce que nous sommes dans les années, tous les débuts des années 70, où il invente le European language. C'est-à-dire que ce goût des accents et des imitations, il avait inventé un langage qui mêlait toutes les langues européennes et divers idiomes qu'il avait rajoutés.
Ce qui va donner lieu à une double page,
voilà,
avec chaque représentant des pays européens, qui est d'une drôlerie et d'une actualité encore à l'heure actuelle, très juste.
Et le dessinateur s'appelait Popé. Serge a fait beaucoup de BD avec ce garçon qui était très gentil. Un ornithologue communiste, mais très gentil, type charmant. Oui, donc
Oui, encore une fois, un personnage à multiples facettes, véritablement. J'avoue que Tolkien, moi jamais je me serais penché là-dedans si Serge de Beckett m'avait fait passer pour un âne batté, parce que j'ignorais l'œuvre de Tolkien.
Il faut le dire aussi, Brignol l'a évoqué tout à l'heure, qu'il était passé par Planète, cette revue étonnante.
Oui, il fallait l'écouter imiter Bergier. Et raconter la visite de Bergier chez Lanza del Vasto. Je crois que plus personne ne connaît Lanza del Vasto parmi les plus jeunes, mais qui a été un patriarche, un homme qu'on donnait en exemple, qui était tout habillé de blanc et avait sa ferme. Et Serge racontait, je le ferai sans l'accent, mais Berger y allant, et Lanza del Vasto disant, vous voyez, mon cher Jacques, le lait vient des vaches de ma ferme, la tunique que je porte, c'est du lin qui a été tissé par les blanches mains de mes jeunes amis. L'herbe que vous voyez nous rappelle que le bois de la maison, nous l'avons porté nous-mêmes. Et Berger lui dit, et quand vous avez la syphilis, vous prenez pas de pénicilline?
Voilà, c'était les mille anecdotes de Serge. On pourrait passer une nuit. Mais là, je crois que Victoria veut quand même lire un tout petit peu de ces messages qui affluent. Alors, Victoria, encore à vous.
Alors, très chers amis, je vous écoute du bureau, aussi heureux qu'ému, car vous vous offrez une émission digne, drôle et magnifique et émouvante. L'émission que j'attendais. Vous avez perdu un ami, un frère, moi j'ai perdu un père, comme tous ceux qui aimaient et aimeront Serge toute leur vie. Oui, je considère Serge comme mon père, celui en qui on a toujours confiance, celui que l'on écoute, que l'on admire, avec l'innocence d'un enfant, d'un fils, celui en qui on a une confiance aveugle, celui avec qui on réalise que l'on partage tous les avis, toutes les idées, tous les mêmes enthousiasmes, quel que soit le sujet envisagé. Comme vient de le dire Christian, Serge est et restera la référence dont on attend la vie. Unique entre tous, le jugement plein de bonté, la flèche sincère qui vous touche au cœur. Oui, aujourd'hui je suis orphelin, mais un orphelin digne et heureux. Digne parce que ce père m'a appris la liberté, la joie de vivre et de se battre, tête haute. Heureux parce qu'il m'a appris la vérité et que je sais qu'aujourd'hui, ce père que j'ai aimé filialement est parti retrouver son père, son grand-père, à la droite de Jésus. Amitié à tous, c'est Grégoire Boucher, et Dieu vous garde. Alors, l'abbé Pozzetto, de la Haute-Savoie, je ne pourrai malheureusement pas quitter vendredi pour les funérailles de Serge de Beckett, pour des raisons toujours importantes. Je veux vous exprimez toute mon admiration pour le courage et la foi de notre ami disparu. Je suis un très ancien ami de Serge. Et c'est en lisant un entrefilet de Libération que hier que j'ai appris son décès. Nous perdons quelqu'un de grand.
Oui. C'est Serge là aurait bondi et aurait dit ça lui apprendra à ne lire que Libération, parce qu'il aurait lu Minute, il aurait lu le Libre Journal,
il aurait lu Présent,
il aurait eu beaucoup plus qu'un entrefilet. Voilà ce qu'aurait dit Serge.
Faut le redire à nos amis auditeurs que c'est pas vraiment dans Libération où on va apprendre des informations sur notre famille, comme disait Serge, évidemment.
Merci Victoria. Alors encore deux.
Je suis Kabyle, nous dit cet auditeur. J'écoutais Serge de Beckett depuis Radio Solidarité. Au début, parfois, l'émission me révulsait un peu. Mais depuis qu'il est mort, j'ai l'impression d'avoir perdu quelqu'un de ma famille. Merci Serge, me dit un auditeur qui s'appelle Iban Berariu. Ayant quitté la folie communiste roumaine en 1990, j'étais heureux à l'idée de pouvoir me baigner dans l'excellence française. Hélas, ma joie fut de courte durée. Les médias avaient formaté les gens dans un communisme mental encore plus difficile à combattre que le communisme politique. Durant des années, j'ai supporté ce cauchemar. Et puis un beau jour, je découvre par hasard Radio Courtoisie. C'était une émission de Serge. Quel bonheur, je respirais enfin. Merci Serge, à mon niveau, je vais continuer ton combat.
Merci Victoria.
Un petit dernier. Mes amis des ondes connues et inconnues, je me joins à votre immense peine. Moi aussi, je viens de perdre un guide et une lumière politique qui éclairait ma vie depuis 20 ans. Serge a retrouvé son père et ceux qu'il aimait tant. Un grand baiser, enfin, Je vous embrasse tous. Pierre Massacrier.
Merci, Victoria. Et alors, justement, ce sont les journaux amis qu'il faut lire. Parce que, notamment, tout de suite, présent a accordé une belle une. C'est un numéro de
c'est
présent.
C'est l'avantage du quotidien.
C'est l'avantage
de pouvoir
du quotidien.
Intervenir tous les jours.
Eh oui, eh oui. Eh bien, on intervient plus ou moins bien. Mais je dois dire que cette page, je vous avais construite, Jeanne Smith et toi et Olivier Filera, c'est très belle. Je sais que vous préparez à présent, il faudra...
Dans le numéro de samedi.
Dans le numéro de samedi.
Il y aura un supplément spécial, Serge de Beccacci.
Un supplément spécial.
Avec notamment des interventions de François Brignot qu'on a entendues, du Marquis et de quelques autres.
Voilà. Alors donc, déjà, on sait très bien où se procurer présent. 5 rue d'Amboise, 75-002 Paris. Nous reviendrons sur ces numéros magnifiques. Aussi, dans le journal Minute, eh bien, Daniel, tu as consacré un très bel article. Hein, donc, hommage à Serge de Beccacci. Je pense que
prothèse.
C'est Minute qui doit paraître demain. Et enfin, naturellement, non pas dans le numéro qui va sortir, mais le prochain, parce que nous voudrions ciseler cela. On reprendra une partie de cet entretien. Il y aura un numéro spécial de reconquête pour Serge de Beccacci. Et c'est maintenant... Henri de Lestien qui voudrait lire des témoignages qu'il a reçus.
Oui, nous avons reçu beaucoup de lettres. Hein. Victoria vient de lire des messages qui viennent d'être téléphonés, mais nous avons reçu beaucoup de lettres déjà. Et je vais vous en lire une prise un peu au hasard parmi beaucoup d'autres. Cher monsieur, vous venez d'annoncer en ce dimanche, 7 octobre à 13h20, le décès de Serge de Beccacci. Pardonnez-moi, j'en ignore l'orthographe. Il a oublié le T, c'est B-E-K-E-T-C-H.
Et pas d'accent.
Voilà plus d'un an que j'adhère à votre association. Et cela me cause de la peine, car habitant Caen, je n'écoute plus que Radio Courtoisie. Je connais toutes les voix sans connaître les visages. Il y a une très belle prière de Saint-Ambroise que je vous transmets ci-dessous, que je vous transcris ci-dessous. Seigneur, ne me séparez pas après ma mort de ceux que j'ai tendrement aimés durant ma vie. Seigneur, je vous le demande de toute l'ardeur de mes désirs, que là où je serai, cela aussi soit avec moi. Dès que je le pourrai, je ferai dire une trentaine de messes pour nos chers disparus, et ce, par un prêtre africain totalement démuni, qui dessert une petite paroisse au Cameroun. J'espère venir à la fête de Radio Courtoisie le 10 novembre prochain, et ne manquerai pas d'aller vous saluer. Merci de tout ce que vous faites pour notre chère radio, bien courtoisement.
Merci Henri. Daniel Amiche.
S'agissant de prières, avant, on ne va pas l'oublier, parce que je crois qu'on va le dire un certain nombre de fois, mais enfin, je rappelle quand même donc les obsèques. Enfin, la messe de Requiem pour notre ami Serge sera donc célébrée vendredi.
À 10h.
À 10h. En l'église Saint-Odile, donc c'est dans le 17e.
C'est 2 avenue Stéphane Mallarmé.
C'est pour Champéret, c'est
très facile. Tout le monde qui a emprunté un jour le périphérique connaît cette église avec une espèce de. Presque orientale, avec un long minaret. Et qui est une mosquée qui a le motu proprio.
Voilà.
Et c'était l'église de Pierre l'Ermite.
En plus.
Alors rappelons-le. Donc, messe pour Serge de Beccacci, vendredi prochain, après-demain, 12 octobre à 10h du matin. Répétons-le. Donc, après-demain, vendredi 12 octobre à 10h du matin, en l'église Saint-Odile, 2 avenue Stéphane Mallarmé, Paris 17e, métro ligne 3, porte de Champéret, ou RER C, Pereire.
Voilà, je prie de les auditeurs qui auraient souhaité m'y rencontrer, ben, Daniel me pardonne, les enfants de Serge aussi, et Serge m'approuve, puisque je dois quitter pour la Pologne pour prendre la parole l'après-midi à Cracovie, et je n'ai pas le choix, vu que nous sommes 5 à partir impérativement. Voilà, ce sera pour moi une grande tristesse, mais l'accompagnement par la prière sera là. Daniel Amiche, vous voulez encore intervenir
Sur Serge, on pourrait. C'est pas une émission qui va nous falloir. Il va nous falloir toute une vie pour essayer de résumer cela. Enfin, chacun, encore une fois, va voir Serge selon son propre regard. Mais c'est ça qui est d'ailleurs très intéressant, c'est de voir tout ce qu'il a apporté aux uns et aux autres. Alors moi, je vous ai écouté tous avec vraiment beaucoup d'attention. Enfin, vous qui le connaissiez depuis longtemps, moi je le connais aussi depuis assez longtemps. Depuis 85 ou 86, bon voilà, donc ça fait 21 ans à peu près. Et je rappelle enfin que Serge était aussi, comme je l'étais moi-même et comme je suis toujours d'ailleurs, était un royaliste. Enfin, il était royaliste tendance plutôt dure. Enfin, voilà, Serge était un Mais voilà, on a vécu.
On va
beaucoup.
Finir par devoir s'excuser à la radio de ne pas l'être.
Voilà, oui, oui, mais pourquoi pas,
extraordinaire.
Pourquoi pas, évidemment.
On a le droit de ne pas être royaliste.
Toujours, il y aura toujours un roi entre nous tous. Mais voilà, par exemple.
Et Serge était. Vous pouvez être démocrate et républicain et aimer Radio Courtoisie.
Mais comme il disait, j'ai plus d'une corde à monarque.
Oui, alors, je cite une petite anecdote très intéressante, et c'est une chose qu'Henri de Lesquin ne connaît pas, et ça va rentrer dans sa culture de Radio Courtoisie. C'est que la seule personne qui ait osé, qui ait eu la permission de fumer dans ce studio, où personne n'a jamais eu la permission de fumer, c'est Thierry Ardisson. Et Serge de Becketch l'avait invité au moment où il avait sorti son livre sur Pondichéry, enfin le parallèle entre Pondichéry et
C'était pas un mauvais livre, il a eu quelques ennuis.
Voilà, parce
il avait beaucoup de pages qui n'étaient pas de lui.
Qui n'étaient pas vraiment de lui, mais qui, voilà. Mais bon. Et Serge, alors, c'était quand même très intéressant, il faut le savoir. Quand même. Voilà, voilà, il faut... Non, c'était encore plus loin.
Non, plus avant. C'était...
Voilà, il y a eu une très bonne... En première partie de l'émission, moi je faisais la seconde partie, la chronique Les Fous du Roi, il y a eu donc cette émission... entre très très bonne émission entre Serge de Becketch et Thierry Ardisson, ce qui montre que tous les deux à cette époque, enfin en tout cas pour Ardisson, avaient quand même l'esprit très très large.
Daniel,
c'est
merci.
C'est le seul, pardon.
Oui,
c'est le seul Thierry Ardisson qu'on n'a pas pu empêcher de fumer.
Voilà,
c'est sûr.
Il était tellement nerveux.
Il était tellement nerveux, on s'est dit qu'il allait tomber malade, qu'il allait exploser si jamais on essayait.
Comme il fume pas que de la moquette.
Ah oui, voilà. Mais là
c'était. Il fume des blondes américaines.
Je voudrais donner la parole à Henri de Lesquin pour quelque chose de très important et qui l'honore.
Chers amis auditeurs, Serge de Becketch était un grand homme, mais pas un gestionnaire, et il est mort dans la gêne. Et son épouse connaît une situation financière délicate. Alors, à cause de l'amitié que nous avons pour Serge, et donc pour sa famille, je voudrais vous appeler, si vous le pouvez... envoyer un don, un chèque à l'ordre de Becketch sans indiquer de prénom particulier parce que ça peut être le fils, l'un de ses fils qui le touchera à la radio, donc au 61 boulevard Murat 75 016 Paris. Si vous voulez aider la famille de Serge de Becketch qui a besoin de notre aide, eh bien vous pouvez envoyer un chèque à la radio et la radio le transmettra.
Alors, je voudrais dire aussi quelque chose, c'est qu'il reste, qui m'avait été remis par ADG, un certain nombre de Nuits de Jéricho que nous avions écrit avec Serge. Si les gens le veulent, ils peuvent m'écrire à présent pour 18-20 euros et l'intégralité, bien sûr, de ces livres, de ce qui rapporterait, il y en a à peu près 300, irait bien sûr à Daniel.
Merci Alain.
L'adresse de président.
Non.
C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents.
Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Jean Ferré a créé le prix Daudet en 1997. Il en fut le lauréat en 2006. Aujourd'hui, pour rendre hommage au fondateur de Radio Courtoisie, le prix Daudet est rebaptisé prix Jean Ferré. Cette année, le prix Jean Ferré sera décerné le samedi 10 novembre lors de la fête de la langue française pour le 20e anniversaire de Radio Courtoisie. Le jury du prix Jean Ferré est constitué par l'ensemble des auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes membre du jury. Votez pour la personnalité française ou francophone qui, selon vous, a le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Vous pouvez choisir parmi les écrivains, les journalistes, les producteurs de radio ou de télévision. Demandez un bulletin de vote en nous envoyant une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. Après avoir indiqué le nom de votre choix, il vous suffira de faire parvenir anonymement le bulletin à l'huissier mentionné. Cet huissier effectuera le dépouillement. La liste des 10 noms arrivant en tête sera publiée et le samedi 10 novembre, les adhérents participant au déjeuner éliront, par vote à bulletin secret, celui des 10 noms qui sera proclamé prix Jean Ferré 2007. Vive la langue française.
C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre. et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Et Henri.
Oui, chers amis auditeurs, merci Bernard de passer la parole. Chers amis auditeurs, aujourd'hui 10 octobre, c'est le dernier livre journal de Serge de Bekech, mais c'est aussi l'anniversaire, tu l'as dit
tout
Bernard,
à l'heure, oui.
C'est l'anniversaire de la mort de Jean Ferret. Et vous vous rappelez peut-être, chers amis auditeurs, qu'en 2006, nous avions décidé, le conseil d'administration avait décidé d'autoriser le vote pour Jean Ferret, qui était mort lors de l'attribution du prix, mais qui était vivant au début des opérations de vote. Donc de la même manière, c'est de la jurisprudence, la jurisprudence Jean Ferret s'applique à Serge de Bekech. Vous pouvez, si vous le souhaitez, voter pour Serge de Bekech. Et je dois dire, les auditeurs sont libres, ils voteront pour qui ils voudront. C'est eux qui décideront librement. Mais pour ma part, je voterai pour Serge de Bekech, pour qu'il ait le prix Jean Ferret. Le prix Jean Ferret qui succède au prix Daudet, qui continue le prix Daudet. Ça serait vraiment un très très beau symbole que pour ce 20e anniversaire de Radio Courtoisie, eh bien, Serge de Bekech soit lauréat du prix Jean Ferret. Et ainsi, les deux fondateurs de la radio seraient réunis dans cet hommage. Et venez très nombreux, chers amis auditeurs, le samedi 10 novembre à la Mutualité. Venez, vous qui êtes parisiens, mais peut-être vous qui êtes en province, venez nombreux, faites le déplacement peut-être à cette occasion. Ça, c'est vraiment le 20e anniversaire, c'est vraiment un moment très émouvant. Nous aurons à commémorer à la fois Serge de Bekech et Jean Ferret.
Merci Henri de Lesquin. J'ajoute que moi aussi je voterai le prix Jean Ferret à Serge de Bekech et je regarde les yeux de Daniel et je me doute que son vote...
C'est déjà fait.
C'est déjà fait, bien sûr.
On a eu le bulletin.
Le marquis dit que oui aussi, mais voilà. Victoria aussi. Pour qui va-t-elle voter, Victoria ?
Pour Serge, bien sûr. C'est
fait, c'est bien. Bon, j'ai eu le bulletin mercredi soir à l'émission de la semaine dernière et dimanche, jeudi matin, ça partait par la poste et le soir, j'avais un message d'Anne Brassier m'invitant très chaleureusement à voter pour Bekech qui était déjà...
Écoutez, moi je me demande comment Serge va prendre ça, parce que pour lui, être élu, c'est quelque chose que jamais il n'aurait imaginé.
Alors, j'ajoute que ce n'est pas simplement de l'amitié, c'est dû à son talent, car lisez son dernier livre, Le catalogue des nuisibles, et vous verrez son style, enfin le style que vous admiriez. Je me permets de dire qu'il était encore meilleur à l'écrit qu'à l'oral.
C'est Elsa.
Vous êtes d'accord,
oui. Une auditrice pose une question. Vendredi, au lieu d'apporter des fleurs, vaut-il mieux apporter de l'argent pour la souscription ?
Eh bien,
je peux apporter les deux.
C'est vrai que les fleurs, c'est périssable, mais au moins l'argent pourra servir peut-être.
Voilà, eh bien écoutez, chers auditeurs, la première partie de cette émission se termine. Merci de votre attention. Nous reprenons dans quelques minutes.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net.
Merci de passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie à 21h30 tout à l'heure, en direct aussi le Libre Journal de la Nuit de Paul-Marie Couteau. Et puis tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Anthony, assisté de Victoria. Cette émission est diffusée en direct mercredi 10 octobre de 18 à 21h, en différé jeudi 11, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 20 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Votre gloire est immortelle, volontaires et officiers blancs, et votre agonie suprême, la honte de l'Occident, et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous continuons cette soirée d'hommage à Serge de Bekech. Nous avons tout à l'heure écouté les témoignages, les anecdotes de ceux qui maintenant sont partis, Alain Sanders, Jean-Paul Chérig, les témoignages de François Brignot, de Jean-Pierre Cohen. Eh bien, voici que nous rejoignent dans le studio Anne Brassier. Bonsoir Anne.
Bonsoir Bernard.
Gérard Marin.
Ami Bonsoir Fréchère. Bernard.
Et Philippe Varlet, secrétaire général de Radio Courtoisie. Tout à l'heure, je faisais allusion aux journaux qui, déjà, aux journaux de la famille, c'est-à-dire aux journaux de la France, parce que les autres sont-ils des journaux de la France qui ont rendu l'hommage, déjà, qui convenait à Serge, à Mich dans Minute, mais cette très belle une du journal présent, et je voudrais lire ce qu'a écrit, puisque Jade Smith a travaillé cette page avec Alain qui vient de nous quitter, avec Olivier Fideras. Elle dit ceci, « L'autre grand souvenir, l'autre grand exemple laissé par Serge de Bekech, c'est celui d'un sens des proportions qui avait fait de lui un pamphlétaire pour le bien. Face à la culture de mort, aux mensonges, aux mesquineries, aux escroqueries morales et matérielles, aux trahisons, aux abandons de notre temps, il réagissait avec toute sa force d'âme, mettant en évidence et en perspective ce qu'il y avait de plus abominable pour que personne ne puisse prétendre n'avoir rien vu. Comme le bâtisseur de cathédrales du Moyen-Âge, ponctuant son œuvre de gargouilles et de figures grotesques, parce que le mal doit être dénoncé, et mieux encore ridiculisé. Et plus loin, Serge de Bekech, homme d'immense talent, journaliste hors pair dans son maniement de la langue, comme on manie la rapière, n'aura pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Son décès est passé inaperçu dans la grosse presse. Son décadère n'était pas cité à la télévision, ni dans les revues de presse convenables. Eh bien, voilà, autour de cette table, nous sommes ceux qui ne font pas partie de ce sens du convenable, parce que nous avons au-dessus de cela donc une plus haute conception de la plume et de l'honneur du journaliste. Anne Brassier.
Moi, je voudrais redire ce que j'ai dit à midi dans l'émission de Gérard Marin, c'est que Serge de Bekech nous a beaucoup bousculés. Il nous a fait aller de l'avant et quand il a donné la parole aux prêtres, il savait ce qu'il faisait, il s'est comporté en témoin, mais il a donné la parole à des prêtres que l'on n'avait pas l'habitude d'entendre, l'abbé Laguéry, l'abbé Cellier, le père Argouarche. Et quand on a entendu une fois ces prêtres, on ne peut plus continuer à vivre comme avant. Et je crois que ça a été une grande force, en fait. Quand on a le micro est comme lui et qu'on le donne à des prêtres comme ceux de la fraternité, de toutes les fraternités réunies, je crois qu'il a eu vraiment une influence considérable. Et à chaque fois que nous rencontrons les auditeurs, beaucoup nous disent je n'avais jamais été à l'église, j'y suis allée grâce à lui, ou je suis retournée à l'église grâce à lui. Ça, c'est pour notre âme. Et puis, il s'occupait aussi de notre petit corps. Tous les mercredis, il nous donnait des tas de remèdes. Il invitait des tas de gens pour des gens très sérieux, puisqu'il s'est battu pour Beljanski, grâce auquel, quand même, notre grand président de la République précédent a vécu 10 ans de plus. Et je crois qu'il a donné beaucoup de... Il a donné le goût de se battre à des tas de gens qui étaient au fond du désespoir, au fond de la maladie, et il leur a donné le goût de se battre. Et je crois que ça aussi, c'est important. On ne renonce pas, même quand on est malade. Voilà. Alors bien sûr, quelquefois, c'était des espoirs un peu bizarroïdes, mais il faut retenir le goût de se battre contre la maladie. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours... je prends tous les matins ce que j'appelle ma cocaïne. Eh bien, c'est lui, c'est grâce à lui que j'ai rencontré des naturopathes qui fabriquent des produits. Je pense que c'est vraiment un homme qui a influencé, qui a changé les vies, notre âme et notre corps.
Alors moi, je me souviens de quelques soirées avec lui, et notamment tout à l'heure, dans une conversation précédente de l'émission, Philippe Varlet, nous évoquions cette rencontre chez moi. Il y a tellement eu de voyages. Alors, Philippe Varlet, secrétaire général de Radio Courtoisie, je voudrais qu'il nous dise un peu l'aventure que cela a été pour lui, que cette radio, avec Serge, qu'il connaît depuis plus longtemps que moi, puisque oui. 26 ans pour vous, Philippe.
26 ans, c'est vrai, oui.
24 pour moi.
Il m'a fait connaître Jean Ferré. C'est-à-dire que Jean Ferré avait besoin de gens sûrs, de gens sérieux, pour constituer la base de la radio. Et c'est grâce à Serge que je suis entré au premier conseil d'administration. J'ai été présenté à Jean Ferré et je suis resté jusqu'au bout, jusqu'à maintenant. Avec Serge, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, ça fait donc 26 ans que nous nous connaissons. Nous n'avons jamais réussi à nous tutoyer. On a essayé... C'est pas moi, je tutoie pas facilement, mais je voulais toujours tutoyer Serge et lui aussi, mais nous n'y parvenions pas, on pouvait pas, c'était impossible. Mais on s'entendait très bien. Je sais que pendant de nombreuses années, pour toutes ces émissions qui se passaient dans ce studio, je n'entrais pas dans le studio là où je me trouve actuellement. Comme je l'ai dit ce matin, c'est la première fois que je reste aussi longtemps dans un studio, et c'est pour cette raison que je trouve qu'il est indispensable de mettre la climatisation, parce que c'est quelque chose d'épouvantable. Et c'est pour cette raison également que j'ai fait appel aux auditeurs pour lancer mon ticket restaurant, non, mon ticket de restauration, n'est-ce pas, pour mettre en place un certain nombre de choses que nous avons absolument besoin dans cette radio. Je disais donc au tout début de ces émissions, Serge, j'étais derrière la vitre, je restais 3 heures debout, et j'étais ses yeux, j'étais son regard, et pendant toutes ces périodes-là, j'étais un peu aussi la ligne jaune, c'est-à-dire je lui évitais de la franchir, tout simplement. Mais le temps ensuite est venu, j'ai vieilli, et resté 3 heures debout complètement, j'en suis parti. Et c'est à partir de ce moment-là, peut-être qu'il y a eu quelques petites dérives, mais enfin, ça fait partie de Serge, et s'il n'y avait pas eu ça, ben ça n'aurait pas été Serge. Donc ce Serge que j'aime beaucoup, c'est mon ami. Je n'ai eu qu'un ami. Et c'était le pire.
Je peux raconter une petite anecdote pendant que nous sommes réunis ici pour voir notre bon camarade Serge. Et je me souviens, nous étions tous ensemble, il y a des années, avec... Philippe et Françoise Varlet, Serge et Daniel, et moi-même, et peut-être d'autres, je ne me souviens plus, au Sacré-Cœur de Montmartre. Et Philippe, qui a toutes les qualités, y compris celle de ne pas avoir de respect humain, disait en voyant ce grand Christ Pantocréator qui figure sur la coupole, en disant « Oh ben alors, il est moche, il n'est pas avenant. » Et Serge répondant « Tu verras quand tu seras là où quelle tête il te fera. » Alors, ce genre d'anecdote, vous vous souvenez de cette petite anecdote au Sacré-Cœur de Montmartre, qui était très très jolie aussi.
Oui. Non, donc, excusez-moi, j'ai eu un moment de...
Mais Philippe, on a tous, ce soir-là, de ces moments.
Ce qu'il y a, c'est que vis-à-vis de tout ce monde qui se trouve autour de la table ici, je suis pas grand-chose. Vous êtes tous des grands techniciens, des grands journalistes, des grands écrivains.
Vous êtes un grand cœur, Philippe, surtout, et vous avez été, avec votre épouse, Philippe, je salue.
Sans
vous
toi, avez... la radio n'existerait pas, parce que c'est grâce à toi et grâce à Didier Roy que Jean Ferré et Serge de Beketch ont pu créer la radio. Et c'est grâce à vous et à Serge qu'après la mort de Jean Ferré, la radio a pu survivre. Et donc je voudrais te dire merci, Philippe.
Merci Philippe. On se joint tous à Henri pour te dire cela. En face de moi, mon vieux complice, qui m'a si souvent invité aussi et qui m'a appelé l'autre jour, Gérard Marin. Gérard.
Bah, tu sais, Bernard, je crois que tout, ou en tout cas l'essentiel, a été dit sur ce journaliste hors pair qu'était Serge de Beketch. Je pense que la presse française, même si elle ne s'en rend pas compte, à part les journaux de notre famille, a perdu un maître. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que derrière le talent hors du commun du polémiste, derrière les coups de gueule du pamphlétaire, je suis un homme en colère, disait-il souvent, légitime colère, ô combien, il y avait un homme, plusieurs des participants à la première partie de cette émission l'ont dit, il y avait un homme d'une grande délicatesse, d'une grande pudeur, et j'irais même jusqu'à dire d'une grande compassion. Abondant dans le sens de ce que vient de dire Anne Brassier, je peux témoigner que quand Serge a appris la très grave maladie qui a frappé mon épouse, Annick Marty, eh bien tout de suite, il s'est soucié d'essayer de nous aider. Et c'était l'époque où participait régulièrement à ces émissions un homme d'une qualité assez extraordinaire aussi, un homme en tout cas d'un grand talent médical qu'était le docteur François Planté. Et c'est grâce à Serge de Beketch que mon épouse a pu être reçue et soignée pendant plusieurs années par le docteur François Planté, qui lui a évité de sombrer dans le gouffre où cette maladie précipite les malades. Alors ça, je ne l'oublierai jamais. Et pas une seule fois où j'ai eu Serge de Beketch, soit en face de moi, soit en téléphone. Et il y a encore quelques semaines, quand de sa voix affaiblie, nous avons eu une très longue conversation, je l'avais appelé sur son portable, et où il me disait avec beaucoup d'émotion qu'il regrettait que nous nous soyons découverts si tardivement, parce que nous avions une amitié profonde et une estime réciproque. Moi, évidemment, je le connaissais depuis longtemps, depuis ses chroniques éblouissantes, notamment de télévision dans Minute, mais nous nous étions jamais, disons, rencontrés. Et il m'a dit, alors qu'il souffrait déjà de cette gravissime maladie, hein, combien il regrettait le temps perdu dans notre amitié, et il me demandait, lui qui était si malade et qui souffrait tant, il me demandait encore des nouvelles d'Annick. Eh bien ça, voyez, je crois que ça dépeint le cœur gros comme ça de cet homme. Parce que le talent, la plume, le panache, c'est une chose extraordinaire. C'est vrai que c'est un de nos derniers grands pamphlétaire avec François Brignot. C'est vrai qu'il est dans la ligne des Léon Blois, des Henri Béraud. Mais tout cela n'arrive pas suffisamment à décrire, comment dirais-je, la dimension du personnage. Et une autre dimension du personnage, plusieurs l'ont dit tout à l'heure, c'est le côté blagueur, le côté farceur. Et j'avoue que j'ai rarement ri autant qu'en écoutant Serge de Beketch imiter les rappeurs de banlieue au cours d'une de ses émissions. J'ai trouvé ça absolument fabuleux. Or, ce garçon qui savait manier la plume, comme on l'a dit, comme une épée, comme une rapière, pour s'attaquer aux ennemis de la France, mais il savait aussi les démolir, les tourner en dérision avec un humour absolument, lui aussi, hors du commun.
Oui, je crois, Gérard, que On pourra revenir à l'occasion sur les farces de Beckett. Il est même en fer. Et c'est ainsi que, il y a 2 ans, dans la très modeste toute petite piscine que j'ai dans ma maison, il devait me rejoindre pour le week-end. Nous arrivons en retard, naturellement, ma femme et moi, on avait été faire quelques courses parce qu'il fallait quand même le faire bien manger. Et puis, il n'est pas là. Et puis, qu'est-ce que je vois dans la piscine, flottant Serge de Beckett, comme si c'était noyé. Et je m'écris sur le moment, pardonnez-moi, chers auditeurs, parce que ces gens qui pleurent, Jean Thierry a le con. Et il se retourne avec un grand éclat de rire, il met la bousse, et c'est comme ça, il me dit que tu me regrettes. Alors voilà, c'était Serge, c'était un farceur enfantin quelquefois. Et donc, c'est ce Serge avec lequel donc, nous avons combattu avec des armes de mousquetaire. Hein, on a évoqué tout à l'heure le Cosaque, l'amour qu'il avait pour son parachutiste de père, mais il aimait l'Armagnac, il aimait les mousquetaires. Donc, Aramis, je pense que là, tu veux en placer une.
Hein. Non, je veux simplement rappeler une chose. Tout à l'heure, Henri de Lesquin évoquait les difficultés dans lesquelles se trouve Daniel aujourd'hui. Eh bien, c'est un petit parallèle, parce que parallèle à la fois du talent et du pamphlet. Serge meurt dans le dénuement qui a été celui d'un honoré Daumier. Daumier est mort dans une misère profonde. Il a été sauvé par le peintre Corot qui était scandalisé par le dénuement dans lequel il se trouvait. Je pense que c'est la preuve qu'il n'y avait rien à gagner dans la fierté du combat qu'il a pu mener. Si aujourd'hui on peut, à notre tour, nous, les vivants, rendre, j'allais dire, une petite part de cette affection qu'il a portée au monde, que rappelait Gérard Marin tout à l'heure avec beaucoup d'émotion, je pense qu'on peut le faire. Encore une fois, Serge était très attentif aux gens. Moi, j'ai une petite anecdote, parce que la pauvre Danielle, parfois, s'inquiétait des retours un peu tardifs de Serge. Et une fois, nous avions comme ça une journée récréative où il n'y avait pas de travail. Et nous fréquentions un restaurant des Halles où nous retrouvions avec Jacques Redon, avec ADG, avec
Alphonse Chez Denise, Boudard, sans
voilà.
doute.
Il y avait toujours un certain nombre. Et un jour, Serge déjeunait là-bas avec Christian de Lamazière. Et ils arrivent pour déjeuner. Et puis, le déjeuner se passe. Il parle. Et puis, il regarde sa montre, tiens. Oh là là, il est 7h30. Il faut absolument que je prévienne Danielle, parce qu'elle s'inquiète. Nous devions dîner chez des amis à 8h30. Et en fait, ils sortent de l'établissement, et le jour se levait, il était 7h30 du matin.
Victoria, les messages affluent. Alors, oui, elle s'y retrouve, noyée. Victoria, elle est un peu noyée. Mais
s'il est vrai qu'on peut juger un homme à la qualité de ses amis, l'émission de ce soir est une preuve supplémentaire de ce que Serge de Beckett était un grand bonhomme qui manquera à tous les tenants du pays réel. On reçoit un message de Hubert Massol aussi, conseiller municipal d'Asnières, secrétaire général de l'association de défense du maréchal Pétain. En communion de pensée avec vos intervenants, condoléances à son épouse et à ses enfants. Serge de Beckett a eu le courage de recevoir Madame Beljanski. Grâce à lui, j'ai pu garder un ami qui a retrouvé la santé par les produits Beljanski. Veuillez donner des. Ah ouais, non, c'est autre chose. Sainte-Odile ne ressemble pas à une mosquée, mais est une église de style romano-byzantin.
Mais c'était une plaisanterie, cher auditeur.
De Sainte-Sophie est construite pour les Alsaciens de Paris.
Mais oui.
Sur ce point, je crois que c'est vrai et faux à la fois. Les mosquées ont été faites sur le modèle, sur le plan byzantin. Donc, effectivement, moi je vois l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Versailles qui a été construite sur le modèle byzantin. Est tout à fait prête à être transformée en mosquée, ce qu'à Dieu ne plaise.
La preuve en est, c'est qu'à Beyrouth, la gigantesque mosquée Hariri est construite sur le modèle de Sainte-Sophie de Constantinople. Et c'est ce qui nous permet d'espérer qu'un jour, ces mosquées pourront être transformées facilement en cathédrale. Serge de Beckett approuvait volontiers mon projet de construire un jour, si Dieu le veut, une cathédrale à la Mecque.
Mais je préférais qu'elle fût en style gothique.
Eh bien, Henri, nous allons étudier cela. Je pense que ça sera un de nos débats très prochainement.
Alors, nous avons fait des misères à M. l'abbé Pozzetto. Bon, parce qu'on a mal traduit son message. Donc, il nous dit « Je ne lis pas Libération. J'écoute l'émission et malheureusement, mon message a été tronqué et l'on m'a prêté la lecture d'un journal que je ne lis pas. »
Mais on n'a pas.
C'est vrai que c'est une calomnie odieuse d'accuser l'abbé Pozzetto de lire Libération. Ça, franchement.
Monsieur François Pozzetto, on ne t'a pas accusé, toi. C'était un autre auditeur. Il y a confusion.
Il y a confusion entre deux auditeurs.
Je salue l'abbé François Pozzetto, qui est mon grand ami. Je crois qu'il y a confusion. Alors là, il y a de la friture dans la communication. Alors,
chers amis auditeurs, vous qui lisez Libération, allez vous confesser à l'abbé Pozzetto.
Alors donc, il nous redonne le message qu'il avait envoyé. Je reprends donc l'intégralité de mon message, de la Haute-Savoie, que je ne pourrai malheureusement pas quitter vendredi pour les funérailles de Serge Dubéquetch, pour d'importantes raisons. Je tiens à dire toute mon admiration pour le courage et la foi de notre ami disparu, que Dieu lui accorde la paix et la joie éternelle, qu'il nous donne de continuer courageusement le bon combat pour la France et pour la foi, et toutes mes amitiés à Bernard Anthony et à ceux qui l'entourent ce soir, et ma profonde union de prière vendredi, où je serai avec vous tous par la pensée donc et la prière. Merci pour cette émission magnifique, c'est un auditeur qui, étrangement et contre toute attente, parvient à me faire accepter enfin le retour à Dieu de notre si cher Serge Lebeketch. Il m'a tant apporté qu'il m'est impossible d'en dresser la liste. Il continuera à cheminer à mes côtés et à me guider dans toutes mes actions, mes pensées et mes actions. Mes pensées les plus affectueuses vont à toute sa famille et mes amitiés à tous. J'ai parfois téléphoné à Serge Dubéquetch et alors, malgré ses occupations, ça c'est une auditrice qui nous dit ça, il a toujours pris le temps de me parler avec une gentillesse immense et autant de simplicité.
C'est comme ça qu'il rentrait le matin chez lui à 7h30.
Voilà, à force d'avoir l'amitié vigilante.
Nous sommes quelques-uns à en avoir su quelque chose.
J'ai une grande toujours une auditrice, j'ai une grande reconnaissance envers Serge Dubéquetch qui, par ses émissions, m'a permis de découvrir certaines médecines douces ou parallèles qui m'ont soulagée au-delà de ce que je pouvais espérer. La peine ne doit pas nous aveugler, nous dit cet auditeur. Souhaitons que Dieu l'accueille comme il le mérite, qu'il soit en paix. Serge n'est pas mort. Tant que Radio Courtoisie restera fidèle à l'esprit de ses fondateurs, il sera toujours parmi nous. Sa voix ne s'est pas encore tue. Sachons l'écouter et la faire vivre dans notre souvenir et nos cœurs. Alors, vendredi, question précise, je n'y comprends pas grand-chose. Vendredi à Saint-Odile, est-ce une messe funéraire ou une messe à la mémoire de Serge Dubéquetch ?
Non, c'est la messe de
Saint-Odile.
C'est
une messe de requiem qui ne peut être que dans la forme extraordinaire compte tenu de la qualité de la personne pour laquelle elle va être célébrée.
Ce qui veut dire pour les non-initiés que c'est une messe de Saint-Pie V.
Saint-Pie V
avec le bicêtre de Jean 23.
C'est la messe catholique traditionnelle. Voilà.
Et donc le prêtre... mène l'assemblée.
Serge était délicat. Il nous a invités au château chez Olindre. Nos chambres nous furent distribuées, et la plus belle à Serge. Mais il se souvint alors que j'étais malade, et il a insisté pour que je prenne la sienne. Je ne l'oublierai jamais. Auditrice anonyme, je veux vous dire ma profonde affection. Je ne fais que pleurer en pensant à Serge, et pourtant je ne le connaissais pas. J'ai déjeuné hier à la tour de Montlhéry et j'ai annoncé au chef Bernard la mort de Serge Dubéquetch. Il a eu la larme aux yeux. Nous avons parlé de Serge à l'époque où il avait eu sa chimio. Serge Dubéquetch illuminait tous mes mercredis. J'abrégeais mes réunions, j'inventais n'importe quel prétexte pour arriver à temps à la maison et écouter son émission en direct. J'aimais la liberté de son ton, la pertinence de ses observations, son humour ravageur, son humanité, son humilité à force de ses convictions, son formidable savoir. Il ne m'a été donné qu'une fois la chance de le rencontrer, il y a quelques années, et depuis j'étais devenue une auditrice fidèle de Radio Courtoisie. Je rêvais de le revoir. Serge était un héros au sens vrai et noble du terme. Tout comme vous, il me manque cruellement. Que Dieu veille sur lui.
Merci Victoria. Nous reprendrons tout à l'heure un certain nombre d'autres messages. Daniel Amiche veut intervenir.
Moi, j'aimerais régler un petit mystère, parce que Serge était avec beaucoup de qualités, quelques défauts aussi, il faut dire. Mais il avait surtout la qualité d'être un garçon assez discret, très très discret. Et il ne m'a jamais dit comment il avait recruté Victoria. Et moi, c'est une question que j'aimerais bien connaître maintenant. Je crois que ça amuserait beaucoup d'auditeurs de le savoir, parce qu'on parle souvent de Victoria. C'est bon. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'il vous a déniché? Et puis, comment ça s'est passé avec lui? Voilà, ça nous intéresse. Ça, c'est la vie de la radio, ça.
Eh bien, ça s'est passé à National Hebdo, dans les années 1989, je pense, oui. Il y avait également à National Hebdo Françoise Varlet, qui venait d'arriver, et elle était une fan de Sissi Impératrice. Donc, elle a reconnu ma voix et elle l'a signalée à Serge. Un matin, voilà qu'il m'appelle dans son bureau, qui me propose de venir à Radio Courtoisie dans son émission. Qui, trouvait-on, manquait de voix féminine? Il imaginait déjà un scénario. Il ferait entendre un extrait de film aux auditeurs et leur demanderait de deviner le rapport entre les deux voix. Moi, j'étais horrifiée. Ah non, pas question. Non. Moi, je suis bien trop traqueuse. La radio, je ne saurais jamais. Il a eu un sourire amusé et goguenard et il m'a demandé d'un air froid, peu aimable. Ah bon? Vous ne savez pas lire? Bah, si. Eh ben alors, je ne vous demande pas autre chose que de lire les annonces et les messages. C'est facile, ça, hein? Une chose que vous savez faire. Bon, alors je compte sur vous mercredi prochain. L'émission est à 6h, venez un peu plus tôt. Et voilà comment a débuté notre numéro de duettiste. Le gros vilain et la pauvre petite, qui a fait rire les auditeurs et qui a duré plus de 18 ans. Moi, il va beaucoup me manquer.
Merci, Victoria.
Merci, Victoria.
Alors, j'ai des messages encore. J'ai eu la chance de participer plusieurs fois à des dîners avec Serge. Et c'était le plus fabuleux bout en train que j'ai jamais croisé dans ma vie. C'était quelqu'un de vraiment très, très drôle.
Ah, c'est certain, il savait déclencher des fous rires en racontant des histoires, en faisant des imitations. Et puis, les blagues que vous avez évoquées tout à l'heure au téléphone. Les mêmes blagues, d'ailleurs, que faisait dans ma prime jeunesse que je voyais faire à Philippe Bouvard quand il venait d'entrer au Figaro comme petit grouillot, les fameuses blagues au téléphone, on vous confirme tant d'unités pour New York ou pour Tokyo, etc., etc. En tout cas, je voudrais ajouter que c'est la triste preuve qu'il n'y a plus de grande presse française en dehors des journaux et des magazines de notre famille nationale, qu'il ne faut pas négliger, mais ce qu'on appelait la grande presse, parce que s'il y avait eu une grande presse, eh bien un journaliste de la patte, de la culture, du talent de Serge de Beketch, hein, y aurait dû avoir la première place. Et ça, c'est un triste constat. Ça prouve combien la presse française, en quelques décennies, s'est effondrée. Et en tout cas, c'est son déshonneur de ne pas avoir accueilli Serge de Beketch, parce que, encore une fois, je me répète, mais une plume acérée, une plume qui fait aussi mal que des flèches, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, personne n'a su. Je veux dire qu'il aurait dû avoir non pas quelques milliers ou dizaines de milliers de lecteurs ou quelques centaines de milliers d'auditeurs, mais des millions de lecteurs.
Anne Brassier, je pense, veut...
Moi, j'avais envie de lire ces deux textes de lui, oui. Parce que c'est des textes très enlevés, très brillants, comme toujours, et comme ça, on aura sa voix. C'est sur un site internet catholique et royaliste. Alors, l'interlocuteur lui demande « Vous vous engagez avec beaucoup d'énergie et de courage, tant dans vos émissions sur Radio Courtoisie que dans votre décadère, le Libre Journal. Est-ce un baroud d'honneur ou croyez-vous encore à la possibilité d'une victoire sur la décadence et l'abrutissement actuel ?» Et notre Serge répondait « Si on ne se battait que quand on est sûr de la victoire, ça manquerait de panache, non? Je ne me pose pas la question, je fais ce que j'ai à faire à la place où je suis. Quand on est dans une barque au milieu d'un lac d'excréments, on a deux solutions. Éviter de remuer en espérant s'habituer à l'odeur, ou ramer en se disant que, bien sûr, ça pue un peu plus, mais qu'on en verra peut-être le bout. Chacun sa méthode, la mienne c'est de ramer. » C'est vraiment la traduction d'une énergie fabuleuse. Voilà. Et puis, il avait aussi écrit, défini la ligne éditoriale de son journal. Résistance française et catholique.
Résistance à la pensée unique, au politiquement correct, à la censure ethnique, aux faux culs démocrates, aux avaleurs de parapluies, aux petits flics, aux mafias politiciennes, aux curés tordus, aux imbéciles sectaires, aux voyous apatrides, aux détraqués normatifs, aux féminihilistes, ça c'est un jeu de mots génial, aux bofs, bref, à celles et ceux que j'épingle dans le catalogue des nuisibles. Mmh. Voilà, toujours le mot juste.
Bah, il avait le génie de la formule, hein, du mot qui fait mouche. Ça, c'est incontestable, et c'est vrai que c'est rare. Et en lisant le catalogue des nuisibles, ou le dictionnaire de la colère, c'est ça, le livre qu'il avait publié précédemment, eh bien, on est époustouflé de cette force, et de cette justesse du vocabulaire.
Moi, j'ai une petite question, alors, parce que j'aime bien poser des questions, mais ça me remplit d'émotion et d'intérêt de voir tout ce que vous dites sur Serge. Parce que moi, j'ai connu un certain Serge, on a tous connu un Serge différent, en fin de compte. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, personnage multiple, parce que personnage ample, talentueux, qualité extraordinaire. Alors, Bernard, vous-même, là, je posais la question à Victoria tout à l'heure, mais vous-même, dans quelles conditions vous l'avez rencontré?
Ah, là, c'est évoqué quelque chose qui a, comment dirais-je, que Serge a souvent traité sans complexe, qui a tenu à son passage par la franc-maçonnerie. Tout simplement, je connaissais Serge d'assez loin. Tout à l'heure, nous avons fait allusion au mouvement solidariste. Je faisais partie de ces groupes de jeunes gens avec Jean-Pierre Skirbois, Marie-France Skirbois. C'était le mouvement solidariste français issu du mouvement Jeune Révolution. Nous étions en contact avec ce qu'on appelait à l'époque les dissidents russes. Aramis le connaît très très bien, tout cela aussi. Mais je le connaissais de loin. Moi, j'étais un provincial. Et puis, voilà que j'organise les journées d'amitié française, le lancement du journal Présent, etc. Et lors de la journée d'amitié française de 1983, il se trouve qu'il y a un journaliste dans la salle que je ne connaissais pas à l'époque, qui s'appelle Edwy Plenel. Depuis,
oh mon Dieu.
Edwy Plenel, mon camarade Edwy Plenel. Donc Edwy Plenel est là, il fait sa mission, il est à l'écoute, il note d'ailleurs pas très scrupuleusement, puisqu'il me fera dire des choses que je n'avais pas dites. Dieu merci, j'avais un grand avocat, Georges-Paul Wagner, pour me défendre, et c'est à l'époque que je gagne les procès contre Le Monde, contre Libération, contre Anne Sinclair. Enfin, au total, nous gagnons 20 procès. Mais c'est pas pour parler de moi que j'ai dit cela, mais parce que j'ai une grosse peine à l'époque. C'est que je suis attaqué dans un journal qui s'appelle Le Trapouillot, qui est de Minutes, et que je suis attaqué par quelqu'un qui s'appelle Jacques France, je ne sais pas qui c'est, et qui s'indigne de ce que cette journée n'avait pas été aimable pour la franc-maçonnerie. Donc, à vrai dire, j'avais consacré le thème de cette journée aux hiérarchies parallèles, aux pouvoirs occultes, enfin, voilà. Nous nous étions exprimés devant des milliers de personnes, et Le Monde donc, me consacre une pleine page dévoilant que Bernard Anthony, c'était Romain Marie, ou réciproquement. Je m'appelle, je le rappelle, Bernard Romain Marie Anthony. Mais je veux savoir qui donc a bien pu m'attaquer dans le Trapouillot. Et j'invite Jean Bourdier, qui nous écoute en ce moment, je salue, salut Jean. Donc je lui dis, écoute Jean, dis-moi. Ah, il me dit, je peux pas. Bon, et puis on me fait venir une petite bouteille, une deuxième. Je vais te dire, il me dit, il faut que tu parles à Serge, quoi. Et alors donc, je comprends tout de suite que c'est Serge. Et chez Louis Ridat, je suis au comptoir, à côté de Serge de Beketch. Il me dit, je pense que vous avez des raisons de m'en vouloir. Je lui dis, à titre personnel, non, mais je crois savoir que Jacques France, c'est vous qui m'avez attaqué. Oui, c'est moi, et je le regrette, parce que je suis plus du tout framac. Je m'aperçois que j'ai fait un passage, et alors il décrit ça dans Reconquête, par la maçonnerie, et bah, je lui dis, écoutez, à ce moment-là, il n'y a qu'une solution, c'est tout de suite de faire venir une première, et Louis Ridat dit, avec son vocabulaire très cru, hein, tous les deux, maintenant, vous faites pas, vous voyez ce que vous voulez dire, Jean-Louis Ridat, les nombreux amateurs du Père Tranquille qui nous écoutent en ce moment voient cela, et avec Serge, on vide une première petite bouteille, et puis on va en vider une seconde, et c'est là qu'on rentre le matin vraiment très tard, très fatigué, on a fait le tour de la maçonnerie, et c'est comme cela qu'on devient les meilleurs amis du monde. Ensuite, on a eu, il en a eu avec ADG, on a eu quelques petites ombres, mais toujours, je dois le dire aussi, dans les débats qui ont pu nous affronter, on continuait à se voir. Nous avions des positions un peu différentes, mais ça n'empêchait pas de venir à la maison et réciproquement. C'est comme ça d'ailleurs qu'un soir de fête de la musique, en sortant de chez lui, j'ai failli être lynché par une bande de sauvage. Donc, avec Serge, ensuite, il n'y a plus de fâcherie. Nous avons eu des désaccords quelquefois. Mais donc, il voulait que nous refassions ce livre sur la maçonnerie que nous avons fait ensemble, c'est-à-dire une secte au cœur de la République. C'était un livre qui a été très vite épuisé, parce que nos deux signatures font que 3000 exemplaires, ça s'est diffusé en quelques mois. Et donc, nous voulions refaire ce livre. Nous l'annoncions, et hélas, l'année dernière encore, il me disait « Oui, il faut qu'on se mette au travail ». Et puis voilà, il n'a pas pu se mettre au travail, et moi, je vais essayer de m'y mettre tout seul, mais il va me falloir beaucoup de courage, parce que, bien sûr, je republierai ce qu'il avait publié, mais il avait en tête, réellement, de creuser cette chose-là, d'apporter des éléments nouveaux, parce que son passage était plein d'expériences. Il était d'ailleurs devenu tout à fait hostile à la maçonnerie, mais sans haine contre les francs-maçons, parce que je le disais tout à l'heure, ce n'était pas un homme de haine. Il pouvait donc, comme nous sommes tous autour de cette table, capable d'avoir des relations qui ne sont pas celles de gens sectaires. Et donc, je veux apporter aussi ce témoignage de Serge, qui savait creuser les idées. Il n'était pas seulement un pamphlétaire, il n'était pas seulement un homme de cette lignée dont nous avons souvent énoncé ce soir. Il était, comme Léon Daudet, capable de grandes réflexions. Et notamment, j'ajouterai, je change de registre, sur les questions du beau. Voyez-vous, Jeanne Smith, dans présent, a eu raison de dire vraiment ce qui nous unissait profondément. C'était, au fond, cette volonté de faire face à la culture de mort. Cette expression de culture de mort de Jean-Paul II est très forte, parce que je crois que c'est la grande dialectique aujourd'hui. Il y a la culture de vie, la culture de mort. Rien qu'autour de cette table, nous avons des origines différentes, des expériences différentes, peut-être, mais nous avons les mêmes valeurs et surtout un même amour de la vie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a Henri de Lesquin ? Comment Henri de Lesquin et Serge se sont rencontrés ? Ils sont très différents. Serge décrit qu'il était un terrassier, tant qu'Henri, beaucoup plus tard, beaucoup plus jeune que lui...
Pas tellement plus jeune ?
Pas tellement.
Non, il est mort à l'âge de 60 ans, j'ai 58 ans.
Oui.
Ah non, nous sommes du même âge.
Oui,
hein.
Oui, vous êtes du même âge, oui. Il n'y a que moi qui suis tellement plus vieux, alors on peut tolérer comme ça quelques erreurs d'appréciation. Hein. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'était son amour de la culture de vie, et il avait un goût très sûr. Serge savait ce qui était laid.
L'amour du beau, oui.
L'amour du beau. Et là, il rejoint celui qui est pour moi un grand frère, qui est Léon Daudet. Hein, parce que Léon Daudet, mais je ne vais pas me mettre à parler de Léon Daudet, mais j'ai passé des soirées avec Serge à parler de Léon Daudet. Ils se ressemblent par la truculence, par la corpulence. Ils se ressemblent par la verve, par l'analyse critique, par donc une culture. Léon Daudet, n'est-ce pas, Aramis, je sais que tu aimes Léon Daudet. Hein, donc Serge aimait beaucoup Léon Daudet, et je voulais évoquer cela aussi.
On a publié récemment une intervention absolument prodigieuse de Léon Daudet à la Chambre des députés, oui. Ça n'était pas encore l'Assemblée nationale, justement sur l'intérêt
des humanités,
de la culture grecque et latine.
La revue Lovenrin.
Et ça, c'est absolument remarquable. Voilà, et on voit là aussi la dimension
et d'un
personnage.
Et nous l'avons reproduit dans le dernier numéro de Reconquête.
N'oublions pas que si le prix Daudet, qui est devenu aujourd'hui le prix Jean Ferret, s'appelait prix Daudet tout court, c'est parce que Jean Ferret voulait évoquer à la fois Alphonse Daudet et Léon Daudet.
Alors, je peux faire une petite confidence, c'est que mon père était un fidèle lecteur, un abonné de l'Action française. Il allait régulièrement, avant la guerre, à ses réunions. Et je me souviens d'avoir été petit garçon à une de ses réunions avec papa et d'avoir vu, j'étais extrêmement impressionné par Léon Daudet. Il y avait Charles Maurras, mais on sait que physiquement, Charles Maurras, qui était évidemment une grande intelligence, une extraordinaire intelligence, mais physiquement n'avait pas de quoi impressionner le petit gamin que j'étais. Alors que Daudet, avec sa truculence, avec sa corpulence, j'en ai gardé un souvenir que je n'ai jamais oublié. Et à la suite de cela, je me suis dit, en grandissant petit à petit, à lire les papiers de Daudet dans l'AF. Voilà.
Aramis.
Il y a une chose qui serait souhaitable pour l'avenir, c'est effectivement que l'ensemble des écrits de Serge, de ses éditoriaux soient enfin réunis, parce que on citait Daudet. Daudet a publié ses mémoires à travers Paris Vécu, par exemple. De Serge, on conserve beaucoup de choses, mais qui sont des choses qui, j'allais dire, sont passées dans la presse même décadaire, et c'est-à-dire dans l'éphémère. Et il faudrait peut-être, comme acte de piété, que l'on puisse envisager la publication de l'ensemble de ces éditoriaux qui méritent sans censure aucune d'être publiés, parce que ça, ce serait un devoir, ne serait-ce même que pour les générations futures qui un jour ou l'autre s'intéresseront à lui comme on s'est intéressé à Béraud ou à Léon Blois.
Excellente suggestion, oui, et je pense que cet ouvrage aurait un énorme succès auprès des auditeurs de Radio Courtoisie.
J'ai beaucoup admiré l'écriture de Serge, qui était un pamphlétaire flamboyant. Et je lui ai dit, et ça lui faisait plaisir, que je l'admirais encore plus à l'écrit qu'à l'oral. Un auditeur a parlé tout à l'heure, dans un message que vous avez lu, Victoria, de la pertinence de ses propos. Moi, je suis surtout frappé par l'impertinence de ses propos. Car c'est ce qui fait le personnage, c'est que il a toujours refusé de se soumettre au politiquement correct. C'est ce qui fait évidemment qu'il a vécu situation financière difficile, comme l'a dit Gérard Marin, il n'a pas eu la carrière extraordinaire qu'il aurait dû avoir en vertu de son talent s'il avait accepté de se soumettre.
Un homme libre, fier,
puissance,
sûr de ses convictions. Donc.
Et il a toujours refusé d'abandonner sa liberté de pensée et surtout d'abandonner évidemment la cause à laquelle il croyait, la cause de l'Église, la cause de la France. Et toujours, il s'est battu pour ce qu'il croyait vrai.
Il n'y a qu'un seul ouvrage qu'il n'aurait jamais pu écrire, c'est « Comment placer son argent à la bourse ». Parce que Serge ignorait tout de ces mécanismes, d'abord, qu'il méprisait totalement. Mais surtout, il avait un détachement vis-à-vis de l'argent. J'ai une autre anecdote, une année où il va toucher des indemnités pour un départ d'un journal. J'ai oublié, tiens, de dire qu'il avait collaboré longtemps à une revue formidable, une très belle revue de photographie qui s'appelait Zoom. Mais donc, il y a quelques années, il touche des indemnités pour l'épargne d'un journal, pas des indemnités de milliardaires, mais enfin une petite somme en francs, quelques millions d'anciens francs. Et il va passer des vacances au Portugal. Et là, il y a, sur cette plage où il n'y a pas de Français, il trouve quand même un seul Français qu'il trouve éminemment sympathique. C'est un garçon ingénieux qui a inventé un système, système vieux comme Mérové, mais celui des cravates à système. Il lui dit, mais c'est une entreprise qui, forcément, va générer des bénéfices très rapidement. Il dit, ça tombe bien, dit Serge, tu as besoin d'un capitaliste qui va t'aider dans ton entreprise. Et il lui confie une grande part de ses indemnités que l'autre aura bien entendu empoché. Et ensuite, le culot de l'escroc a arrêté de le menacer pour harcèlement téléphonique. C'est vous dire que l'argent ne comptait pas pour lui. C'était quelque chose qui il en avait, il le distribuait, il n'en avait pas, il ne se posait pas trop la question. Il n'y a que lorsque, je pense, son épouse devait quand même de temps en temps dire il faut remplir le panier de la ménagère pour parler comme aujourd'hui, que les choses devaient se compliquer. Mais c'était, de ce point de vue-là, c'était un être charmant et poétique.
Oui. Il prenait peut-être un certain plaisir à voir grossir le rang de ses ennemis. Au cours de mon émission, à midi, j'ai dit cette chose. Je trouve qu'il y a chez Serge de Beketch, chez ce Slave, il y a quelque chose de Cyrano. Il y a quelque chose de Cyrano. Et à propos de l'argent, ça rappelle la citation célèbre de Rostand, « Pension paternelle, en un soir tu vécu hein ». C'est ça, le mépris de l'argent pour le beau geste, pour le combat qu'on estime indispensable. Ça me, avec le recul, ça me frappe beaucoup.
Moi,
que taire aussi, bien sûr, Gérard Abyss.
Ouais, je pense que nous évoquons son épouse, et je pense que Daniel écoutera peut-être pas la autre chose à faire en ce moment, à penser, à prier, mais elle nous écoutera, et je tiens à ce qu'on l'évoque aussi, parce que Serge avait, dont Daniel avait auprès de lui, je la salue, c'est quelqu'un qui, pour laquelle ça n'était pas toujours facile, parce que Serge rentrait effectivement quelquefois à 7h30 du matin. Elle était là, donc, très près de lui, et elle était là pour l'assister toujours, pour tout tolérer de cette vie quand même qui n'était pas dans le conformisme affligeant, certes, mais enfin, elle supportait beaucoup de Serge, et je crois qu'il a eu, il l'aimait profondément. Ça, je peux témoigner aussi de ce que Serge était vraiment un grand amoureux de sa femme. Il avait pour elle beaucoup de gentillesse. Il me téléphonait souvent. D'ailleurs, il était toujours accompagné d'elle, presque toujours. Quand je venais à Paris, pour lui, dîner avec moi, ça signifiait que c'était avec Daniel, la plupart du temps, dans 90% des cas. Et puis, je pense aussi à ses enfants, à Emmerich, qui est mon filleul de confirmation. Il y avait tenu, donc j'embrasse Emmerich. Cyril, qui je pense, suit un peu la graine de son père, qui est dans la presse. Hein. Donc, voilà, je tenais à ce que les auditeurs sachent aussi, Serge, c'était aussi une vie de famille, très, très, très serrée. Hein. Quand je l'ai retrouvé à Bagnols la dernière fois, hein, la dernière fois que je l'ai vu, avant mon départ au Liban, c'était Serge, son épouse, Cyril était là, et donc il faut que cela soit dit aussi. Victoria, il y a beaucoup de papiers, beaucoup.
Oui.
Il faut donner la parole aussi aux auditeurs.
Une petite anecdote pour rassurer les auditeurs de Radio Courtoisie sur les escapades de Serge. Cet été, Serge est venu à la maison. La dernière nuit qu'il y passa, fin juillet, alors qu'au petit matin, nous devisions dans la bibliothèque, il me dit « Tu sais, j'ai fait un rêve fabuleux chez toi cette nuit. Je voyais ton fils courir sur les remparts de Carcassonne et il était heureux. Puis tout à coup, il a disparu. Alors dans le ciel, juste au-dessus, des anges apparurent et formèrent comme une flèche. Ils replièrent leurs ailes, baissèrent la tête et une porte apparut juste au-dessous d'eux. Tu sais quoi ? J'étais bien. À l'époque, on cherchait le sens de ce songe. Aujourd'hui, il me semble l'avoir compris. C'est le président du Centre européen des mythes et légendes qui nous envoie ce fax.
Ouais.
Alors,
c'est très beau.
Pratique, on nous demande d'épeler le nom de Serge à l'antenne pour les dons obsèques. Donc j'épelle, c'est Serge de Beckett.
Non, surtout pas Serge.
C'est Beckett. Le nom de Serge, faut enlever. Hein. Vous dites Beckett parce que ça, c'est pas Serge qui va. C'est évidemment pas Serge qui va l'encaisser. Donc pour les dons obsèques, vous mettez uniquement Beckett, B-E-K-E-T-C-H, sans accent.
Et vous envoyez le chèque à la radio.
On demande des plaies, c'est tout.
À la radio, 61 boulevard Murat, 75-016, Paris.
Pour acheter le livre de Géricault, à quel ordre faut-il faire le chèque ?
Alors, Alain Sander, c'est parti, mais oui. Je crois que le mieux, c'est de faire le chèque à l'ordre de...
Le présent.
Non,
à l'ordre de... L'ordre de Beckett. Beckett
tout seul.
Et donc, Alain a pris cet engagement tout à l'heure, et je puis vous dire que l'engagement sera tenu, je n'ai aucune inquiétude. Donc, à l'ordre de Beckett, mais il faut envoyer cela à Alain Sanders, journal présent.
Rue d'Amboise.
5 rue d'Amboise. 75-002 Paris. Et je rappelle que le journal présent, d'ailleurs, publiera samedi un numéro spécial sur Serge de Beckett.
Remerciements à tous pour cette belle émission. Je n'arrive pas à réaliser que Serge nous a quittés. De tout cœur avec vous et prières à sa famille. Alors ça, c'est un détail, dirons-nous, qui n'a rien à voir avec Serge directement. Monsieur Barlet est bien modeste, son nom ne figurait pas dans l'ours du Libre Journal à ses débuts. Ah non, c'était pas Philippe Barlet qui figurait, c'était Françoise Barlet qui figurait sous le titre « Ange tutélaire ». Alors, soirée spéciale mais très belle. Serge fut pour nous élu Front National, un formidable conseiller municipal à Sannois. Donc félicitations aux intervenants, c'est émouvant.
Alors, je ne sais pas s'il était élu dans le Val-d'Oise. Ce que je sais, c'est qu'il y a fort longtemps, dans des temps mérovingiens, je crois que c'était en 72 ou 73, Serge, avec notre ami Nourigat, ont eu la particularité de se présenter pour un mouvement qui avait peu d'argent et d'importance à l'époque. Mais ils ont éprouvé la richesse, en tout cas humaine, du dit mouvement, puisqu'ils se sont inscrits tous les deux pour la même élection dans le même arrondissement. Ce qui fait qu'à sur Paris, il y avait un endroit où deux candidats du Front National étaient présentés dans le même arrondissement. Il s'agissait de Nourigat et de Serge de Becquet.
Il s'est effectivement présenté sous l'étiquette, je crois, Front National aux élections municipales. Il y a peut-être une dizaine, une quinzaine d'années. Alors je lui ai posé une fois la question. Moi, je ne suis pas très curieux, mais enfin, ça m'intéresse un peu. Je lui ai dit, combien tu as fait de voix ? Il dit, je n'en ai fait aucune. Parce que j'ai oublié de faire imprimer les bulletins de vote.
Oui, c'est pour ça
que je... C'est pour le système électoral.
Nous avons dit tout à l'heure que c'est pour la première fois qu'il va être élu pour le prix...
N'anticipons pas, Bernard.
Enfin, je peux me permettre une anticipation. Et si je me trompe, je ferai amende honorable. Une séance de repentance. Voilà. Voilà.
Les élections municipales, c'était peut-être bien en 1965.
Non, il n'était pas fait vraiment pour la démocratie. Non, je pense qu'il était modérément de ce côté-là.
Alors...
S'il avait lu Volkov.
c'est Serge de Becquet, nous dit cet auditeur, qui m'a fait revenir à la messe traditionnelle. Slave d'origine, je connais Serge, j'ai mangé avec lui. Son ton de résistance était très bien, ses idées très claires. La vieille Serbie le salue, et on sera à l'église vendredi. Merci pour l'émission. Alors, c'est encore un renseignement pratique. Ces livres sont-ils encore disponibles ?
Oui.
Où ?
Bien sûr. Duquesne, à midi. Alors,
France Livre aussi. France Livre, oui.
Et Becquetch, 4 places France Livre.
Oui.
Serge avait fait faire un retirage.
Paris 10e.
Oui. Avait fait faire un retirage de son livre sur les... Comment s'appelle là, le dernier là,
Le répertoire des nuisibles.
Avant de partir en vacances, il a fait faire un retirage. Donc il se trouve,
c'est lui qui chargeait la diffusion.
Voilà, et donc je pense que Daniel de Becquetch va se retrouver, la pauvre, à la tête d'une collection importante de livres. Donc je pense
donc qu'on faut lui télécharger.
On peut écrire au 4 Place France List LISZT 75010 Paris, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Vous envoyez, vous demandez le catalogue des nuisibles. Je crois qu'on vous l'enverra très rapidement.
Victoria n'a pas fini.
Alors, c'était pour Alain Sanders. La chancellerie de Patagonie salue son compatriote Serge de Becquetch et lui donne rendez-vous dans l'au-delà des mers, c'est-à-dire le paradis des Patagons. Et dernière demande, peut-on se procurer le numéro de Reconquête dont a parlé Bernard Anthony ?
Oui, mais je crains qu'il n'y en ait plus beaucoup. Je ferai vérifier cela dès demain. Mais en tout cas, nous publierons certainement à nouveau dans cet entretien avec Serge de Becquetch. C'est le numéro 206. Et dès demain, il doit rester au Centre Charlier une trentaine de numéros.
Donc ils peuvent
écrire.
Vous redonnez, s'il vous plaît, l'adresse ?
Oui, 70 boulevard Saint-Germain. 75005.
Oui.
Si tu le permets, Bernard, j'aimerais lire un message émouvant d'un vieux et fidèle lecteur de Radio Courtoisie qui est d'origine roumaine, car si Serge avait beaucoup d'amitié serbe, on vient d'en parler, il y avait aussi des amitiés roumaines qui lui étaient fidèles. Et voici ce message qui m'est adressé. Cher ami, en entendant la triste nouvelle dimanche soir, j'ai eu un moment de grande émotion en me rappelant que j'ai rencontré la dernière fois Serge de Becquetch dans le hall de la radio, un mercredi vers 11h30, quand tous les deux, nous vous attendions. Je l'avais invité, je crois, pour le catalogue des nuisibles. Je l'avais vu plusieurs fois sans jamais lui parler jusqu'à ce jour. Il avait beaucoup maigri, il toussait, et je me suis permis de lui dire qu'il ne fallait pas fumer, allusion à ses quintes de toux pendant ses émissions. Il m'a surpris, disant qu'il n'avait jamais fumé. Il y avait un autre mal qu'il rongeait et que j'ignorais. On l'aimait ou on ne l'aimait pas, mais il était une de ces personnalités qui ne devraient pas disparaître, surtout du studio de la radio unique qu'il avait créé avec Jean Ferré. Mais écoutez la fin. Je suis content qu'il fût conscient quand il a manifesté son désir d'avoir un prêtre près de lui et qu'il a reçu en état de conscience la dernière onction. Les gens de cette race ont les plus grandes chances de voir les jardins de Dieu. C'est beau. Paix à son âme. Ce soir, je serai avec toute la radio en pensée. Serge sera au téléphone de la communion des saints.
Eh bien,
c'est très beau.
C'est très beau.
Sherman Demetrio, je peux dire le nom de cet ami.
Bien sûr. C'est très beau. Tout à l'heure, nous allons avoir dans quelques minutes le père Ardoiche, et j'en parlerai. Mais pour préparer cela, je pense que... Non, Victoria, non, vous voulez... Oui, Victoria,
pardonnez-moi, mais volontiers, c'est parce qu'on nous demande de aussi des précisions pour la messe de Jean Ferré.
Ah oui, on peut les donner. Hein. Mais rappelons les deux messes. Rappelons l'heure et le lieu des deux messes. Alors, la cérémonie religieuse pour Serge de Beckett, c'est donc après-demain, vendredi 12 octobre, à 10h du matin, en l'église Saint-Odile, 2 avenue Stéphane Mallarmé, Paris 17e, métro, ligne 3, porte de Champéret ou RERC Pereire. Mais demain, la messe anniversaire de Jean Ferré, qui est mort aujourd'hui, mais la messe a lieu demain, qui est mort, enfin, il y a un an aujourd'hui, c'est donc demain à 19h, la messe pour Jean Ferré, la mémoire de Jean Ferré. C'est l'église Saint-Eugène, Philippe Varlet, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e, métro Bonne Nouvelle ou Grand Boulevard.
Ne dites pas demain, parce que quand on va avoir la rediffusion,
alors,
les gens pourraient croire que...
C'est aujourd'hui,
oui,
demain, mais
c'est jeudi.
C'est jeudi, voilà. C'est
alors,
jeudi 11 octobre.
Voilà. Alors, avant de rentrer en liaison avec le père Ardoiche, je voudrais évoquer ce que Alain a bellement dit dans présent.
Alain Sanders.
Alain Sanders, oui, pardon. Donc, à l'hôpital, Serge a eu, j'allais dire, la chance, une dernière chance, d'être avec un compagnon de chambre qui faisait partie du CERF national des combattants. On sait combien Serge aimait accueillir ici notre ami Roger Olindre et combien Serge aussi était fidèle à la mémoire de son père, je l'ai dit en première partie, son père parachutiste légionnaire, mort à Dien Bien Phu. Et alors, et Serge est mort comme... au fond, selon cet idéal qu'exprime la prière du para que nous écoutons avant d'appeler le père Ardoiche. Ah bon, bien.
Vous voulez qu'on...
Alors Anne, oui, pardon, qu'on recherche
son,
cela,
il y a peut-être... Son credo.
Oui.
Toujours sur ce site, Serge nous donne son credo et qui est assez beau. On lui parle de notre ami Alain de Benoît et Serge de Beckett répond: si Benoît veut croire aux esprits des forêts, c'est son affaire. Moi, je crois aux saints intercesseurs et aux anges recteurs. Je crois qu'ils sont les exécuteurs de la volonté divine et que des myriades d'anges règlent en permanence la marche de la création comme les ouvriers d'une prodigieuse horloge vivante. Je ne crois pas à l'évolution. Je crois que le monde n'est pas vieux de plus d'une dizaine de milliers d'années. Je crois ce qui est écrit dans la Bible. Je suis convaincue que le déluge, l'arche de Noé, la tour de Babel sont des faits historiques. Et je ne crois pas du tout que l'homme descend du singe. Même quand je regarde, je ne dis pas de nom, chacun y mettra un, le sien, ce qui est, enfin le sien, celui dans qui l'a envie, ce qui est méritoire. Et je vais vous faire une confidence. J'attends encore que l'on me démontre que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les benoîtistes vont me clouer à une porte de grange ou c'est moi qui vais les brûler sur un tas de vieilles planches? À mon avis, le plus raisonnable est de faire ce que nous avons à faire en ce bas monde et de se redonner rendez-vous dans l'au-delà pour voir qui a raison. À ce moment-là, si je suis bouffée par le loup ragagnote, je reconnaîtrai bien volontiers qu'Alain de Benoît a gagné. Mais je ne suis pas inquiet.
C'est très bien. Il n'était pas sectaire.
La prière du para.
Mon Dieu, donne-moi la tourmente, donne-moi la souffrance, donne-moi l'ardeur au combat. Mon Dieu,
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Père Ardoise, je crois que, comme moi, comme nous, autour de cette table, vous aimez cette prière du Para chantée par le chœur montjoie Saint-Denis de notre ami Jacques Arnoux, qui nous écoute, que je salue, qui aimait Serge de Bétèche. Père Ardoise, nous vous aimons et nous avons, beaucoup de reconnaissance pour ce que vous avez fait pour Serge. Il vous aimait beaucoup. Je ne me souviens pas d'une seule soirée avec lui où il ne vous ait évoqué. Mais vous l'avez accompagné dans son agonie. Vous avez été auprès de lui, celui qui, pendant 4 jours, donc, l'a assisté.
Je ne suis pas seul à l'avoir accompagné, parce que celui qui lui a fermé les yeux, c'est, je tiens à le dire ce soir, c'est l'abbé Guimarie, qu'il aimait beaucoup.
Oui, aussi.
Et qu'il connaissait depuis tellement longtemps. Et moi-même, j'ai dû partir à Riomont, et c'est lui qui lui a donné la communion le dimanche, et qui a fait la prière des mourants, et qui lui a clos les yeux. Et donc, je voulais surtout dire que nous étions plusieurs prêtres à nous occuper de lui, dont aussi le père Olivier, qui est venu le voir et qui l'a confessé. Et donc, c'est superbe, parce qu'on était 3 prêtres à se relier auprès de lui.
Oui. Pouvez-vous, je ne vous demande évidemment rien qui relève du secret de vos relations avec Serge en cette fin de parcours terrestre, mais pouvez-vous nous dire aussi ce qui a été pour vous, Serge, puisque vous êtes occupé d'Amérique, notamment mon filleul, vous avez un lien avec cette famille. Je voudrais votre regard de prêtre, peut-être, sur l'œuvre de Serge, oui. Sur son combat.
J'ai connu Serge à Chiron-Montreuil, et j'étais très fier de le présenter à mon père, qui est un ancien du 1er régiment étranger de cavalerie, donc un légionnaire. Et donc Serge est parti voir le frère Olivier pour Émeric. Le frère Olivier donc a dit où j'étais, parce qu'à Chiron il y avait beaucoup de monde, et Serge est venu me trouver pour me demander si on pourrait prendre Émeric. Et effectivement, on l'a pris tout de suite. Pour nous, il n'y a pas tellement de dossiers d'admission, surtout dans notre famille de pensée, on s'aide les uns les autres. Émeric est arrivé à Riomont, et puis il est resté, je crois, plus de 2 ans à Riomont. Je me souviens simplement d'une histoire où Émeric m'avait poussé à bout, et je crois, parce que j'ai quand même de la force, je reste encore avec beaucoup de force musculaire, je me souviens, je crois qu'Émeric ne pardonnera, d'avoir décollé Émeric de terre et lui avoir dit, en lui criant, en le regardant dans les yeux, « Rappelle-toi que tu t'appelles de Bekech. » Et c'est des souvenirs formidables, parce que Serge, évidemment, était à Paris, et vous savez que Riomont a une certaine discipline. Eh bien, il a accepté effectivement tout ce régime de vacances, de permissions, etc. Un petit peu comme si on avait mis son fils dans une école de chevalerie, d'ailleurs. Il avait d'ailleurs l'esprit chevaleresque. Il était très généreux. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Un jour, je n'avais pas d'argent, j'étais à Paris, j'ai eu le malheur de lui dire « j'ai plus rien ». Et Serge a vidé toutes ses poches, il avait deux ou trois billets dans différentes poches, il a vidé toutes ses poches pour Riomont, il avait donné tout ce qu'il avait sur lui. Il a fait une couverture magnifique du Libre Journal, Le Miracle de Riomont. Et puis, grâce à lui, à la radio, je m'adressais directement à Marie-Georges Bouffet, aux renseignements généraux, avec beaucoup de détermination, avec lui. Mais ce qui a protégé le village, je l'ai su, puisque l'émission est fort écoutée par certains de nos ennemis. Mais il était prêt à se battre pour Riomont. Et il défendait les petits, les épiciers, les commerçants, les ouvriers, et par-dessus tout, il défendait les enfants. Il défendait Riomont comme une lionne défend ses petits. Et il a même trouvé d'ailleurs une psychologue pour Riomont, qui est Madame Féjean, qui vient ici régulièrement. Et songez aussi que sa voix était tellement forte que les bienfaiteurs l'écoutaient, les bienfaiteurs de Riomont, et se multipliaient comme des petits pains. Et un jour, il y a une maman qui dit à son fils « Tu sais, j'ai écouté le père Argouache à l'émission de Serge de Beketch, tu devrais aller voir là-bas à Riomont ce qui se passe. » Et il y a un garçon qui est arrivé, et c'est maintenant notre père Dominique. Donc Serge a été l'origine d'une vocation religieuse pour Riomont, d'un prêtre qui vient d'être ordonné il y a un an. Et il était toujours à l'affût de tout ce qu'il pourrait faire pour le village. Alors, je me souviens une fois, parce qu'il était très intéressé par les problèmes de la délinquance, il était passionné par ce monde, et je lui expliquais, bien sûr, à travers notre histoire, combien la délinquance montait en flèche, quel était le problème des éducateurs, des écoles d'éducateurs surtout. Et un jour, vous savez, c'est terrible, je racontais beaucoup d'histoires. D'ailleurs, il aurait voulu qu'on fasse un livre plutôt du style de Don Camillo, mais en fait, c'est un autre livre que j'ai fait. Alors une fois, il y avait une jeune fille de 15 ans qui était venue à Riomont au feu de la Saint-Jean, et elle appartenait à un foyer de la DAS à Lille. Et un jour, cette fille s'était échappée du foyer, et puis elle était en fugue. Et alors, elle avait connu un garçon. Et pour provoquer ce garçon, elle avait dit qu'elle était enceinte de lui. Et le garçon l'a tuée. En fait, elle n'était pas enceinte du tout. Le garçon l'a noyée dans la Deule. Et j'avais raconté cette histoire épouvantable en disant, mais ce foyer de la DAS, ben, personne n'en parle. Il y a quand même cet enfant, cette jeune fille, elle était dehors, en fugue. Il y avait peut-être des fautes quand même d'éducateurs ou de recherche. Peu importe, Serge en a fait un article magnifique de défense de cette fille qui a été victime du système. C'était terrible parce que quand j'étais... vous savez que je le voyais travailler, je passais devant chez lui, la fenêtre était allumée et j'ai pas pu quitter ce quartier depuis que je connais Serge. J'ai toujours dormi dans le coin, j'ai toujours à dormir dans ce coin-là parce que j'aurais pu le rencontrer ou parce que simplement je savais qu'il était là alors qu'il avait qu'un an de plus que moi, mais un peu comme un père. Hein. Et donc, il a toujours été avec moi d'une amitié religieuse, mais sans doute ce caractère slave donnait beaucoup plus de sensibilité à cet amour, et souvent il avait les larmes aux yeux, alors qu'il cachait tout cela derrière une façade, devant une façade. Quand j'arrivais à la radio, il me disait « Ah bah la calotte !» C'était traditionnel. Mais je lui disais, mais je ne suis pas curé, j'ai une capuche, je suis religieux. Et ça se terminait toujours par les mêmes histoires. Il était toujours plein de verve, toujours joyeux, mais en même temps, je crois que c'était un grand contemplatif, un grand méditatif. Et pour préparer ces émissions, il se préparait dans la détermination, dans le silence. Et je sais que je l'ai préparé pendant 3-4 jours. C'est vrai que ma bure était un véritable passeport dans cet hôpital. Personne ne me disait rien. Et alors, j'ai vu tous ces gens gentils autour de lui, en particulier énormément d'infirmières africaines qui avaient une dévotion pour lui, qui le maternaient, etc. Alors il me disait, père Argouache, il faut me ramener plein de chapelets parce que il faut que je distribue tous ces chapelets. Il y a plein de gens qui veulent avoir des chapelets. Donc il était très apostolique. Et alors c'était magnifique parce que c'était le mois du rosaire, on était au mois d'octobre, et il a été rappelé à Dieu, quelques une heure, trois quarts d'heure avant ce dimanche de la solennité du rosaire. Et il avait vraiment un goût apostolique, et il me racontait comment il touchait les cœurs des gens dans l'hôpital. Je l'ai attendu quand il est allé pour faire l'IRM, et il est sorti, vous savez, c'est très impressionnant parce que le corps passe dans une sorte de four. Il est sorti, il était tout heureux de me voir, comme si c'était une apparition. Il était tellement heureux qu'il blaguait, il riait. Et tout le monde riait. Alors, il y avait quatre hommes qui portaient son brancard à roulettes. Et alors, moi, j'étais là. Et pendant tout le passage d'un hôpital à l'autre, on a fait que rire et blaguer sur ce que je faisais. Il y en avait même un qui disait qu'il s'était converti malheureusement à l'islamisme, enfin qui était devenu musulman. Et alors Serge et les autres disaient mais le père est là, c'est le père qui doit parler, etc. Et ce musulman avait une sorte de français, donc converti, avait une sorte de dévotion pour Serge et sentait en lui une force chrétienne. C'était quelque chose d'incroyable pour moi d'assister à ce rayonnement.
Merci, voilà. Père Ardoise, de ce témoignage. Vraiment, vous l'avez accompagné, ce que vous nous dites là. C'est émouvant et ça prouve bien qu'il y a des ressources aussi et que le combat n'est pas perdu, que la conversion à laquelle a appelé le père de Foucault, c'est, je pense, le programme politique essentiel de nos jours. Mais là, c'est le président de Chrétienté Solidarité qui parle, mais Serge a prouvé tout à fait cela. Merci, père Ardoise, de votre témoignage.
Voilà, et merci de m'avoir donné la parole. Et il faut que Serge continue à parler dans tous nos cœurs, et il continue de parler. À bientôt.
Merci.
À bientôt, père Ardoise.
Daniel Amiche.
Tout ce qu'a dit le père Arguard, c'est vraiment d'une grande beauté, une grande élévation d'esprit. C'est pourquoi c'est très bien de finir cette émission sur cette tonalité qui avait été un petit peu initiée par notre amie Anne Brassier en lisant ce credo très particulier de Serge. Car c'est une chose qu'on ne sait pas, il faut bien comprendre, une chose qui est difficile, qu'on peut méditer un peu avant la messe de vendredi, c'est que Serge a vécu une passion physique et spirituelle au cours de ces dernières semaines, et que les tout derniers jours ont été vraiment une montée au calvaire, au sens propre, et avec cette chute et ces relèvements de plus en plus difficiles, puis ces chutes encore plus lourdes et ces relèvements encore plus difficiles, jusqu'à être lui-même lié sur cette croix qui a pris pour lui la forme d'un lit d'hôpital. Il a eu aussi soif, il a souffert, et il a eu peut-être un moment d'espérance surnaturelle. Parce qu'il y avait chez Serge, d'ailleurs, ce côté bout en train, sympathique, agréable, blagueur, intelligent, brillant, cultivé, coloré, il y avait quelqu'un qui était vraiment en recherche de Dieu. Il y avait en lui un désir de Dieu, qui là, je crois, menait toute sa vie, et que les derniers instants, les derniers jours, et l'accompagnement de ses prêtres a permis de faire totalement éclore. Donc la mort de Serge, nous la regretterons toujours, parce que c'est un ami, nous ne le verrons plus autour de nous, nous ne rigolerons plus autour de nous, nos auditeurs ne l'entendront plus, mais il faut admettre, et c'est le plus difficile, que cet arrachement, cette perte, est quelque chose qui va remplir autre chose, qui va remplir quelque chose au ciel qui lui était destiné, et qu'on vivra toujours dans la communion des saints. Nous sommes encore dans l'Église militante, nous autres, pour encore un petit bout de temps, si Dieu veut. Mais sachons qu'il y a aussi une autre Église, qui est l'Église triomphante du ciel, à laquelle, dans laquelle nous serons tous rassemblés, après une passion plus ou moins dure, et je l'espère pour nous tous, moins dure que celle que Serge a dû vivre.
Merci, Daniel.
On va écouter une très belle chanson maintenant pour conclure cette soirée. Ouais.
Thank you. pardon.
Oui, voilà, un message dans la
Un message.
Oui, mais c'est des précisions pour les chèques qui doivent être... Alors, on nous demande si les chèques doivent être libellés à l'ordre de Beketch tout seul ou de Beketch.
Ça n'a strictement aucune importance. Mais le plus simple et le plus court, c'est Beketch. B-E-K-E-T-C-H, tout court.
C'est comme ça.
Ça suffit. Peu importe. Mais Beketch ou de Beketch, peu importe. Mais pas de prénom, et pas Serge.
On nous demandait aussi si on avait évoqué l'amitié de Serge pour le combat du docteur Dor, auquel il a donné si souvent la parole pour la défense des tout.
Vous avez raison de le rappeler.
Oui. J'ai évoqué naturellement le combat pour la culture de vie contre l'avortement, et le docteur Dor sera le bienvenu dans nos émissions.
Bernard, avec l'esprit de l'escalier, je voudrais revenir sur le message précédent de Victoria. Parce que pour les auditeurs qui ont pris l'émission en route, nous avons lancé un appel à la générosité en faveur de la famille de Serge de Beketch, qui connaît une situation financière délicate. Et donc, nous leur avons dit d'envoyer des chèques, libellés Beketch, simplement, sans prénom, à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Alors, excusez-moi, j'ai encore un autre message à ce sujet. C'est pourquoi ne l'envoie-t-on pas directement 4 places France Liszt?
Au choix, comme vous voulez. Nous nous ferons suivre s'ils arrivent ici, mais on peut aussi les envoyer 4 places France Liszt, Paris 10e.
Oui.
Absolument.
Et puis, alors on nous précise par ailleurs, mais non, que le catalogue des nuisibles est à 25 euros franco.
Bonne précision.
Merci, Victoria.
Merci. Là, maintenant, la musique n'aura sans doute pas de perturbation.
Le vent penché sur la terre, j'ai pris tes soucieux. Quand j'entendis la voix claire, la petite oiseau joyeux, il me dit le bon courage.
Chers amis, Victoria, il n'y a plus place pour les messages, il y en a beaucoup, je sais que vous aimeriez les dire. Je donne la parole à Henri de Lesquin.
Oui, moi ce qui me frappe dans Serge de Beketch, quand je me souviens de lui, c'est sa grandeur d'âme. Sa grandeur d'âme, alors on a parlé de son courage, de son abnégation et de son courage jusqu'au bout, jusqu'à ses dernières forces. Il s'est battu pour les causes auxquelles il croyait, en particulier pour Radio Courtoisie. Mais je voudrais garder une image de lui. C'était le dimanche 12 novembre. C'était la fête de la langue française que nous recommençons pour le 20e anniversaire de la radio le samedi 10 novembre prochain. Et il y avait une tentative de poupouche qui était programmée et que nous avions démasquée. Et j'en ai parlé avec lui et il a été formidable. Alors il venait de sortir son catalogue des nuisibles, ce superbe livre, et il allait... C'était le jour des BBR, des bleus, blancs, rouges du Front National, et il allait dédicacer ce livre, et au début, il ne voulait pas venir du tout à notre fête. Et il m'a dit, mais tu sais, c'est ma principale vente, je vends 300 exemplaires de ce livre, c'est vraiment, je passe mon temps à dédicacer mon livre quand je vais au BBR, je ne peux pas rater cela, pour moi, j'en ai besoin pour vivre, j'en ai besoin. Je lui ai dit, écoute, essaye quand même de passer au moins au début. Et il a fait cet effort, il a dû perdre plusieurs dizaines de ventes. Hein, il est venu au début, et vous vous rappelez, tu étais là, Philippe. Vous vous rappelez, il a fait une intervention brève, et il a cassé...
Mais cinglante.
Brève, mais cinglante, et grâce à lui, eh bien, nous avons pu empêcher cette tentative de poupouch, qui aurait conduit évidemment à la destruction totale de la radio. Et je voudrais dire à Serge, merci. Je voudrais dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la radio.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, moi je voudrais dire merci, merci à Serge aussi. Mais ce soir, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont participé à cette émission et aussi à ceux qui n'ont pas pu participer, que nous ferons parler, parce que j'aurais tellement aimé donner la parole aux d'autres, à d'autres. Et je crois pouvoir ne pas trahir la pensée de Daniel Lamiche en disant que dans les prochaines émissions, eh bien, nous continuerons à évoquer Serge sous tel ou tel angle, et nous traiterons aussi peut-être de messages que nous avons reçus, de questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Mais je crois que Serge devra... Oui, Henri. Non,
je voudrais dire d'abord que je suis très, très content et très fier que Bernard Anthony ait été par hasard justement celui qui dirigeait cette émission. C'est pour le dernier livre journal de Serge de Beckett. Il m'avait dit, je te l'ai confié récemment, il m'avait demandé de te donner une émission, que tu aies une émission. Et je crois que tu vas pouvoir, avec ton style qui est évidemment différent du sien, mais avec une pensée quand même très proche de la sienne et une toute l'affection que tu lui portes, tu vas pouvoir continuer le combat qu'il a mené. Et Daniel Lamiche continuera lui aussi à côté de toi.
Merci Henri, ça me touche beaucoup, évidemment. Les auditeurs de Radio Courtoisie me connaissent un peu, puisque depuis 3 ans, Serge me donnait une fois par mois cette émission. On va essayer de l'améliorer, mais ce n'est pas de cela que je voudrais vous parler ce soir. Je voudrais vous dire le dernier tri pour moi, c'est que Serge, finalement, a été fidèle à un idéal. Il a su être ce qu'il était, d'abord l'idéal de sa personne, ce non-conformiste que nous avons décrit ce soir, ce talent fou qui ne rapportait rien, cet héritage de sa grand-mère tartare, dont il a hérité, disait-il, que la folie, il aimait passionnément cette princesse. Et donc, pour Serge, c'était vraiment tout ce qui était fou aux yeux des hommes, était sagesse aux yeux de Dieu. Et il est maintenant dans la sagesse de Dieu. Mais surtout, il est mort avec, comment dirais-je, dans la fidélité à cette parole de Georges Bernanos, ils ne nous auront pas vivants. Eh bien, ça, je crois que c'est important, c'est notre programme. Nous sommes cernés par un monde de la décadence, par un monde qui est tout ce que nous défendons, mais nous ne sommes pas des désespérés. Nous savons très bien que notre combat n'est pas perdu. Je voudrais donner aussi un message d'espérance. Nous n'avons pas seulement à témoigner, mais même si nous n'avions qu'à porter ce témoignage, eh bien, je crois qu'il faut être fidèle à cet idéal de Georges Bernanos. Ils ne nous auront pas vivants. Eh bien, Serge, ils ne l'ont pas eu vivant.
Et nous disons adieu, Serge, notre ami.
Dieu te garde.
Dieu te garde. Dans l'espérance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, l'émission se termine, il n'y a plus rien à ajouter. Merci Franck. Maintenant, nous allons nous séparer et nous allons nous retrouver souvent dans la pensée de notre camarade qui est mort en Seigneur.
Serge de Beckett.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beckett, présenté aujourd'hui par Bernard Anthony, assisté de Victoria. Cette émission, diffusée en direct le mercredi 10 octobre de 18 à 21 h, rediffusée dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30, a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse. Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Radio Courtoisie.